9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Bonjour et bienvenue dans Certains Lèmes à Chaud, l'émission qui enregistre son réveillon en décembre et qui le passe en janvier suivant. Bonne année, joyeuse fête, au moment où on diffuse ça, ben le réveillon est passé, ça y est, on est encore avec la gueule de bois, sauf ceux qui font peut-être le dry January, cette bande de sauvages barbares.
Mon dry January ne sera fait qu'avec du martini.
Excellent, vous l'avez entendu, notre favorite est là, salut Hera.
Salut Thomas.
Celui qui va voir quasiment tous les films, quels qu'ils soient, sans aucune distinction, on peut l'appeler le misérable du cinéma. Salut Thierry.
Salut. Moi j'arrive, j'appuie sur la borne, on fait tiens, il y a un truc là, allez.
La dernière fois qu'on l'a entendu dire du bien d'un film, c'était en 1993, je crois. Était-il seulement né ?
C'était par rapport à la vidéo de sa naissance, il trouvait que c'était bien cadré.
Beaucoup trop d'implications dans cette blague.
Notre Godzilla à nous. Karl, comment ça va, Karl ?
Ça va, et toi ?
Ça va, sympa. Ben moi, tu sais, quand on débouchonne le mousseux, ou les bières, ça marche aussi. Mais moi, je suis content. Cette fin d'année, là, ça y est, on conclut une année 2019 qui a été avec des hauts et des bas.
Non, mais ça fait deux fois, là. Enfin, non, au bout d'un moment, c'est sympa. Là, depuis tout à l'heure, on a une Henken dégueulasse en main et le mec, il nous parle de mousseux et de martini. Eh oh ! Enfin... Tu vas arrêter de parler de bons noms d'alcool quand on a un alcool lambda dans la main ?
Excusez-nous, Heineken, donnez-nous votre argent.
Oui. Heineken. C'était combien de fois qu'on devait le dire à peu près pour avoir le...
Autant que eBay.
Ah, eBay.
Ralph 2, c'était cette année ou l'année d'avant ?
Je me souviens. C'était cette année.
C'était
ouais.
Cette année. Il méritait son flop aussi, je crois. Hein. Aujourd'hui, donc, on va revenir sur cette année 2019 chargée en films. Pas que des bons. On parlera de nos bonnes surprises, nos mauvaises surprises, les pétards mouillés, notre flop et notre top, évidemment. Quel est notre film préféré de l'année ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette émission spéciale. On va se garder le meilleur pour la fin et on commence avec les déceptions de l'année. On va commencer par nos pétards mouillés, nos flops, ces films qu'on attendait mais qui n'étaient pas à la hauteur, mais quand même pas assez mauvais pour qu'on les mette dans les flops. Parce qu'il y a des limites quand même, peut être déçu et quand même reconnaître qu'il y a quelque chose dans le film. Chers amis, quels sont vos pétards mouillés de cette année 2019 ? Hera.
Mon premier pétard mouillé, ce serait Chambre 212 de Christophe Honoré, qui avait tout pour me plaire. C'était un film un peu snobinard, un film français, ça parlait d'amour, ça parlait... de voyage à travers le passé, on retournait dans tous les sens, on avait un concept, mais c'était chiant, c'était terriblement chiant. Donc ouais, gros pétard mouillé parce que j'avais mis quand même des attentes sur un scénario un peu particulier et non, ça n'a pas marché. Désolé Christophe. Et le second, je dirais Border. Border, c'était un film pareil un peu fantastique où ça promettait un univers absolument fascinant et je suis tombée sur au final quelque chose d'assez dégoûtant, d'assez dérangeant mais pas quelque chose de tellement dérangeant qu'en fait ça le rend désagréable. Il y avait une belle image mais au final ça n'allait nulle part. Déception et pourtant qu'est-ce que le scénario avait l'air bien.
Je te rejoins sur Chambre 212, moi aussi j'ai pas kiffé des masses mais bon, je vous renvoie à l'émission en question, je vais pas trop changer d'avis depuis ce film là. Je sais pas, c'est vous les autres hein.
Non, moi j'aime bien Chambre 212 parce que je suis pas un fan d'Honoré et c'est le premier film où vraiment j'ai pris mon pied du début à la fin. Après de là à dire que c'était fantastique, non, je vais pas dire ça, mais en tout cas moi c'était plutôt une bonne surprise, ça aurait été parmi les bonnes surprises.
Moi Border par contre j'ai bien aimé, là c'est là que je suis plutôt opposé parce que je trouvais quelque chose d'original, quelque chose de bestial.
Ah c'était bestial, ça on est bien d'accord, mais c'était bestial dégueu, sans fond et où...
Ah non.
Après, toi, t'aimes pas les histoires d'accouchement et de bébé, bon, forcément.
Ah, c'est peut-être aussi pour ça. C'est peut-être aussi pour ça.
Je comprends que ce soit un film qui divise, par contre. Ouais.
C'est clair. Ouais. C'était très particulier. Ça m'a pas du tout charmé. Alors que justement, c'est aussi le genre de film que j'adore. J'avais adoré Morse, j'adore ce type de film-là. Et là, le charme n'a pas opéré du tout.
Karl, quels sont tes pétards mouillés, tes déceptions de cette année 2019?
Alors moi, j'ai eu Gentleman Cambrioler, qui est un film qu'on a complètement oublié. Alors moi, j'étais plutôt attiré par le truc parce qu'il y avait un cast, notamment Michael Caine, mais pas que. Mais un cast que j'aime bien. Ça promettait un film de braco à l'ancienne, un truc assez sympa. Et c'était bon, déjà chiant à mourir. C'était monté comme un Steven Seagal tourné en Roumanie pour 3,50 balles. C'était assez con, si je me rappelle bien. Et ouais, c'est en fait quand on a fait nos top et nos flops de fin d'année, quand j'ai remonté les films que j'avais vus et que j'ai vu celui-là, il m'a fallu 5 minutes pour me rappeler que j'avais vu ce film. C'était assez incroyable. Et mon autre pétard mouillé, c'était Alita. Parce qu'en fait, j'attendais pas mal de ce truc, j'avais lu le manga il y a pas mal de temps. Mais j'ai découvert que c'était réalisé par Robert Rodriguez que genre une demi-heure avant d'entrer dans la salle.
Si t'as cru à James Cameron, forcément là je comprends la déception.
Oh mais j'ai pris cher. Parce que Rodriguez, la politique du « je vais pas bosser », bah voilà, c'était dégueu à regarder, c'était facile, tout ce qui rendait l'histoire intéressante était aseptisé. Bon bah, arrêtez de donner du boulot à Rodriguez quoi.
Oui, moi j'avais pas aimé par rapport à ce que ça faisait du matériau de base, il y avait pas un gros respect, et puis ça dénaturait le truc, on était à Beverly Hills au lieu d'être dans une grosse décharge, mais bon, on était pas trop dans l'esprit, techniquement c'était pas mal. Même si on l'a vu au premier rang, je me souviens, et que du coup on y voyait rien en 3D. Mais oui, au niveau du scénar, lisez le manga plutôt qu'aller voir Alita, quoi. Techniquement, c'est très sympa, mais ça ne justifie pas tout.
Sans avoir lu Gunm, donc du coup je pourrais pas pareil me prononcer sur l'adaptation. C'est vrai que moi le film, je passais un bon moment, pas pour les raisons qu'on imagine. J'ai passé un bon moment, enfin voilà, pas parce, pour le scénar, parce que oui, j'ai trouvé ça complètement con et je me disais bon, si jamais c'est fidèle au manga, en plus je l'ai vu au Japon, donc j'aurais imaginé que les gens auraient gueulé. Ils avaient l'air contents, je me disais bon, bah le manga est peut-être un peu con quoi, et visiblement non, vous me l'avez bien confirmé derrière. Non, moi j'avais passé un bon moment parce que visuellement je trouvais que ça dépotait, il y avait des passages sympas et je me disais, c'est dommage que ce soit là-dessus et que ce soit sur un film aussi creux parce que ça me faisait penser un peu à Speed Racer. D'un genre un peu ovni venu de nulle part qui propose des avancées technologiques assez intéressantes comme on a pu le voir avec Jamie Mann derrière. Bon, sauf que Speed Racer est un film excellent au demeurant quoi. Là, oui, en effet, on s'emmerde quoi.
Et toi, quelles sont tes déceptions?
Quelles sont mes déceptions? Bah voyons, il va y en avoir deux. Je mettrai Ma vie avec John F. Donovan, de Dolan, parce que Dolan, c'est quelqu'un avec qui je m'étais réconcilié peu de temps avant, dont j'attendais beaucoup, finalement, parce que j'aimais beaucoup, et donc j'étais content de me dire, ah, il a l'air de sortir énormément de sa zone de confort, ça va être trop chouette. Et finalement, au-delà du visuel, où bah, c'est très maîtrisé, parce qu'il sait faire le taf et qu'il tente des choses là-dessus, dans le fond, c'était un peu la même chose. Et au final, c'était assez marrant de me dire que bah, j'aime bien quand il me raconte ce qu'il me raconte, mais qu'il le raconte bien. Chose que pour moi, il a réussi plus ou moins à faire avec Mathias et Maxime, qu'il a sorti quelques mois après. Mais ouais, grosse déception, c'était 30 fois trop long et ça racontait pas grand-chose, en tout cas à mon sens. Peut-être qu'une seconde vision pourra me le réhabiliter, en tout cas dans une forme d'estime, mais pas dans un kiff, quoi.
C'est fou, j'entends le frottement de la chemise de Thierry, quoi.
Pourtant, tu vois, j'essaie de pas bouger.
Là, mais c'est ton col. En fait, c'est quand tu parles, tu t'appuies sur le col et le col appuie sur la chemise.
Hein,
ouais. Si waouh, oui, Thierry, mets-toi à poil, oui. Moi, ma déception. Alors, je dirais bien Midsommar, mais on en parlera plus tard. Ah. Alors, il y en a deux. Déjà, Us, que j'ai pas aimé. Mais parce que j'avais déjà pas aimé le précédent.
Get Out.
J'avais déjà pas aimé Get Out à l'époque, donc bon. Mais Midsommar et Get Out sont deux films auxquels je n'accroche pas et que je trouve ridicules plus qu'autre chose. Et je ne comprends pas le succès de ces films.
À quel moment les deux sont mis dans la même phrase?
Pour l'engouement qu'ils génèrent.
Midsommar n'a pas généré un engouement de folie. Hein.
Bah, en tout cas, ceux qui ont aimé ont adoré, quoi.
Ah, oui. Et pour des bonnes raisons.
Compris.
Mais celui qui m'a bien... qui m'a agacé... Je reconnais que techniquement, il y a quelque chose dans le processus, mais dans le résultat final, ça m'a bien gavé. C'était « Ne croyez surtout pas que je hurle ».
J'ai hésité à le mettre dedans, donc je suis ravi que tu en parles. On peut en parler ensemble.
Je l'ai vu avec Hera. C'est un truc... En gros, c'est un mec qui... C'est un film qui est fait... entièrement par montage, c'est des images de films qui ont été découpées pour servir un texte lu. Et en gros, Donc c'est l'histoire d'un Parisien qui est à la campagne pour suivre son mec, et il se sépare de son mec, il se retrouve coincé à la campagne sans avoir le permis de conduire, donc il se fait chier. Et du coup, il regarde des films. Et c'est un Parisien frustré qui va cracher sur le petit village où il est et qui va pleurer la nostalgie de Paris, quoi, qui lui manque. Et encore là, je suis soft dans le propos, mais c'est ça. C'est du pleurnichage, quoi. Ça pleurniche, et puis c'est du ton monocorde pendant tout le film. C'est assez agaçant. La première demi-heure, on a compris, en fait, et plus ça va et plus c'est agaçant, parce que ça se répète en boucle et ça larmoie sur son propre sort. Et bon, je reconnais que techniquement, dans l'approche artistique, il y a quelque chose, mais au final, ça, c'est plus irritant qu'autre chose.
Ouais, tout à fait. Une fois la surprise passée, qui est plutôt une bonne surprise, parce qu'effectivement, le type de montage est intéressant. Si on se rapporte simplement au texte qui est en train d'être lu, on ne peut pas qualifier cette lecture de texte intéressant, bien écrit, qui va nous apprendre quelque chose. C'est une entrée de journal intime qui est extrêmement lassante, parce que comme tu le dis, très monocorde. Et une fois qu'on a compris que bah, ça chiale, que le mec il est pas content, qu'il fait que de se plaindre, il n'y a rien d'autre qui sort de ça. Et puis du coup, il se met à cracher sur tout et n'importe quoi. Donc ça donne une ambiance extrêmement négative et il n'y a aucune sortie de ça. Donc il n'y a pas de progression, il se passe rien de concret.
Oui, puis il te met tout sur le même ton, sur le même niveau. C'est-à-dire que ça soit les fachos dans son village, ouais, ou la fin dans le monde, ou son rendez-vous chez le dentiste, il le dit sur le même ton, sur le même niveau. Donc bon.
C'était 1h15 très pénible. Hein. C'était vraiment pénible.
J'aurais dit plus.
Je vais rajouter un truc, et vu que je suis le seul à l'avoir vu, comme ça j'ai pas besoin de beaucoup m'étendre. Je pense que si on l'avait tous vu, j'aurais fait du gros forcing pour qu'il aille bien bien dans le flop. C'était Domino de Brian De Palma. Peut-être parce que Brian De Palma est un de mes réalisateurs préférés, en tout cas dans sa qualité de formaliste. C'est un mec qui tente 36 000 trucs avec sa caméra. Et je pense que là j'ai rarement vu un truc aussi flemmard, tant dans la forme que dans le fond, et quelqu'un qui passe autant à côté de son sujet, qui ne parvient ni à faire un film politique, vu c'est ce qu'il voulait faire, ni faire une critique sociale, et ni faire un thriller correct. C'était catastrophique.
Bien. Ça, ce n'était que les pétards mouillés. Bon, Domino, il est...
énervé.
Domino, il était en direct VOD, donc bon, ouais. Y avait un signe avant-coureur quand même. Ouais. Là, on va partir sur le vraiment mauvais, sur la crème de la crème.
Kim Chapiron.
Avec Alice Izaz.
La crasse de la crasse.
Non, d'ailleurs, c'était
pas cette année.
Le fameux flop. Le flop 10 de Clark.
Bon, maintenant qu'on aborde les flops, est-ce qu'on peut aussi dire la vérité, Karl, on te doit une excuse. En fait, on n'a pas aimé Talasso. On se fout de ta gueule depuis des mois. Non, c'était juste pour qu'il fasse un j'en étais sûr, mais il le fait pas. Non,
je
il se lève, il va partir avec sa dignité.
Il a indiqué l'idée que c'était potentiellement faux, en fait. C'est...
Alors, dans ce flop, il y a des films qu'on n'a pas mis. Il a fallu faire un choix. Ça a été très dur. On s'est concerté. Ça a mis des mois à se mettre d'accord. On n'a pas mis Captive State ni Gentleman Cambrioleur pour une raison très simple, c'est qu'on les a oubliés. Et le pauvre Karl, qui est le seul à s'en souvenir, en reste traumatisé. On sait qu'on les a vus. On a noté quelque part qu'on les avait vus, mais c'est... Voilà, ça n'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc on va aller sur les films qui, bon, pour le coup, un, ne sont pas très bons, et deux, nous ont énervés, puisqu'ils nous ont marqué l'esprit tellement ils nous ont cassé les pieds, pour rester poli.
Cool.
Voilà, merci Karl. On commence ce top 10, ce flop 10 même, avec non pas un film, mais une série de films. C'est un concept. C'est une boîte, c'est un studio qui a tendance à truster beaucoup les grosses sorties en ce moment, en même temps que racheter tout ce qui bouge. Tu me diras, c'est normal. Là, c'est Disney qui refait en live ses grands classiques, et ce sont les grands classiques Disney en règle générale, mais surtout dans en particulier Le Roi Lion et Aladdin qu'on va viser.
Parce qu'ils sont sortis cette année, hein, parce que dans le même tas, exactement avec les mêmes reproches, on peut rajouter Cendrillon, La Belle et la Bête et Le Livre de la Jungle.
Voilà. Qui nous ont particulièrement gavés.
J'en ai vu aucun des deux, donc je vous laisse la parole, les gars.
Le Roi Lion, c'est simple, c'est le foutage de gueule absolu. C'est-à-dire qu'on prend le dessin animé et on fait image par image, on n'apporte absolument rien. On fait de l'image de synthèse réaliste, entre guillemets, parce que pour peu qu'on puisse faire du réaliste avec Le Roi Lion. Et ben, du coup, ça, on enlève tout le dynamisme, toute la joie, toute la folie, toute la fantaisie pour faire quelque chose de très figé, de très collé et finalement pas très intéressant.
C'est même pas tant ça. En fait, je vais citer l'antinomique de ce qui avait été fait là, c'était Dumbo. Dumbo, c'est un film qui finalement était pas sale, voire moyen, hein, mais qui au moins proposait un autre angle. Ça propose la même histoire, mais vu différemment, donc au moins tu te dis, il y a un intérêt à aller le voir, puisqu'on t'offre un autre angle. T'as quelque chose de différent. Là, ouais, moi, c'est le côté plan par plan, quoi. Plan par plan, c'est inadmissible. Les seuls moments où la caméra fait autre chose, c'est pour ajouter 2-3 petits trucs, parce que le film a 20 minutes, 30 minutes de plus, quoi, un truc comme ça. C'est assez médiocre. C'est un postulat qui est extrêmement nauséabond, même pour le cinéma, parce que ça a été accepté en masse, en fait. Je veux dire, j'ai plus un problème avec le fait que ça ait engrangé autant de monde et que autant de monde l'ait apprécié et le valide, qu'avec le fait que ce truc existe. Ça aurait fait le flop que ça méritait, en mode, bah, ça n'a pas marché parce que les gens disent, oh, attends, tu te moques de moi, Toto. J'aurais préféré, quoi.
J'ai une terrible nouvelle pour toi, Thierry. Il y a La Belle et le Clochard qui sort sur Disney+. Ouais, non, mais c'est que c'est traditionnel. TF1 fait plus d'audience qu'Arte.
C'est faux.
Numéro 9, eh bien, c'est Le Gros Lézard, L'Arme de somnolence massive, Godzilla 2, Roi des monstres. On avait un classique du cinéma japonais, du cinéma en général, même du coup, hein, Godzilla, qui revient dans un film non identifié, dans un objet, des images qui bougent, du flou, on n'arrive pas trop à voir ce qui se passe à l'écran, le scénario aussi est assez flou, pour peu qu'il y en ait un. Ira, tiens.
En fait, comme tu dis, le fait qu'on s'endorme devant un film... Alors, on va pas dire que la bande de claques n'est pas une bande de dormeurs devant des films, ce serait pas vrai. Ça peut arriver. Non, ça peut arriver. Karl râle, mais ça peut arriver. Mais là, pour que 4 personnes s'endorment, mais qu'en plus ce soit même pas la première séance du matin, ni une séance très tard le soir, mais une séance au milieu de l'après-midi, c'est que vraiment, le film ne valait pas le coup d'être suivi, était un brouillon incompréhensible, nocturne et pluvieux, qui n'amenait nulle part, avec des effets qui partent dans tous les sens sans rien apporter à l'histoire de base. On a vraiment rien à... Ouais, il y a vraiment rien à eu à retirer, quoi.
C'est un lézard géant qui tire des lasers, je devrais pas me faire chier.
Attends, des effets qui partent dans tous les sens, mais il y en a même pas d'effets. Enfin, je veux dire, moi, tout ce dont je me souviens, c'est qu'on a un cockpit avec des gens qui regardent et qui citent l'action. Oh, regarde, il a fait ça. Oh, il lui a arraché la tête. Oh, il a balancé des lasers. Mais montrez-le. Arrêtez de montrer des gens qui le disent, quoi.
Et tu te rappelles de la Space Carte au trésor du film, où ils montent en hélicoptère toutes les 5 minutes pour aller d'une location à l'autre.
Voilà.
Cimer l'écologie. Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'effets, alors je crois que tu as raté le moment où la bataille entre Papillusion et...
et Sablette.
Et Sablette. Parce que... Il y a eu... Alors, Papillusion, il a quand même des ailes électriques. Excuse-moi, il y avait des effets, c'était dégueu, on dirait du light painting sur papillon géant, c'est dégueulasse.
Le truc, c'est que la majorité du temps, on le voit pas, ça, quoi, parce qu'à la limite, il y aurait eu ça, et j'aurais été diverti. Je compare ça à Kong Skull Island, qui fait partie du même univers, du coup. C'était complètement con, c'est naze. Mais au moins, tu voyais un gros singe qui se tapait tout le long du film, quoi. À la grande limite, s'ils avaient proposé ça, on aurait fait, bon, bah, c'est Godzilla, quoi. C'est dommage face à ce que ça pourrait apporter psychologiquement. Mais quelqu'un qui pense que Godzilla c'est con et un lézard qui se tape, pour moi il aurait eu ce qu'il voulait. Même pas.
Godzilla 2, c'était vraiment terrible, mais il y a pire encore que Godzilla 2. Notre 8ème place du flop. On a eu du monstre géant. Autre classique du cinéma popcorn, le zombie décérébré avec Retour à Zombieland. 10 ans après, on avait bien aimé le premier.
Oui.
Donc on s'est dit, bah, c'est super. Ah, il y en a qui n'ont pas aimé. Bon, il y avait déjà débat sur le premier. Mais là, le deuxième, on est tous d'accord.
Je l'ai pas vu. Parce que, justement, j'ai pas aimé le premier. Le deuxième est sorti, j'en avais strictement rien à foutre.
C'est tout à fait normal que tu ne sois pas allé. Mais nous, on attendait quelque chose du premier. On a été plutôt déçus, Thierry.
Non, mais carrément. Mais là, pareil, je vais faire encore une extension sur ce que je disais sur Le Roi Lion. Là, moi, ce que je comprends pas, c'est que même des personnes que je connais, des gens dont j'estime la vie, l'ont aimé, quoi. Et le seul argument qu'ils ont, c'est « le premier, il était fun, le deuxième, il est fun, pareil. » Bah, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il essaye d'être fun pareil et qu'il essaye pas d'être fun autrement. Je veux dire, on a exactement la même trame, on a exactement les mêmes blagues, on a les mêmes choses... Et même pas tant puissance 2 que ça, ce qu'on pourrait à la limite espérer de ce genre de suite à la con. C'était pénible, c'était mal joué, parce que plus personne n'en a rien à foutre, à part à la limite Woody Harrelson, qui bah, du coup se dit « quitte à pas jouer, je vais surjouer ». Donc au moins il est fun à regarder. Mais c'est pauvre, quoi. C'est pauvre, et puis il y en a qui me sortent qu'au moins il y a la scène de fin avec Bill Murray, même pas, je me faisais déjà chier, et je trouvais déjà ça naze. Rien que le fait qu'ils aient eu besoin de raccorder ce truc-là en se disant « au moins ça passe ». C'est pas bon, hein.
Ah là 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 là.
on est déçu, on va voir des films popcorn, on sait qu'ils sont pas bons. Alors au moins, on va voir des films d'auteur, ça va nous changer les idées tout ça. Bon, et bien même avec les films d'auteur, on n'est pas à l'abri. C'est ce qu'on a découvert avec ce numéro 7. Synonyme, sorti en 2019, Ira.
Mais oui, j'étais si déçu, j'en parlais pas dans mon pétard mouillé parce que je voulais attendre qu'on en parle dans le flop. Mais Synonyme, ça aurait pu être incroyable, c'est un film censé être poétique sur un homme, un jeune homme qui débarque en France, à Paris, et qui doit réapprendre la langue, il se sert du verbe, il se sert de la littérature pour ça, il rencontre un couple de petits snobinards, dont un joué par Quentin Dolmer, qui pourtant pourrait faire ses preuves. Et donc il va se mettre à se rallier à différentes communautés dans Paris pour essayer de s'adapter à la ville. Et puis c'est juste verbeux et chiant, et c'est tout, et c'était méga dommage, et ça crie dans tous les sens, et ça vient faire semblant de dénoncer des choses sérieuses qui ne sont même pas dénoncées correctement, donc c'est fait avec extrêmement de l'hypocrisie. Il n'y a aucun procédé artistique, une mise en scène totalement absente, une austérité totale. J'étais extrêmement déçu, moi, quand on attendait beaucoup, en fait. Ça aurait pu être super.
Personnellement, je suis parti pendant le film parce que c'était trop exaspérant. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Hein, voilà. Donc, oui, non, un beau, beau flop. Alors, bon, le film d'auteur tout seul, ça marche pas. Le film popcorn tout seul, ça marche pas. On va essayer de mélanger les deux. Peut-être qu'on va avoir quelque chose. C'était ce qu'on était censé avoir avec Glass de Shyamalan. Notre numéro 6, là aussi, la douche froide.
Shyamalan respecte ses thématiques d'auteur, hein. C'est juste qu'au final on se rend compte que ses thématiques d'auteur étaient toutes pourries. Un peu de film où on pensait qu'il avait compris.
Ouais.
Moi ça me suffit largement.
Ah, voilà, ouais, ça suffit largement, ouais, c'est ça. Moi j'allais dire c'était le film de trop, mais bon, oui. Voilà, les deux précédents se suffisaient en fait, mais bon. Pourquoi ce troisième? Là, on va partir encore. Bon, les super-héros de Shyamalan, ça marche pas des masses. Peut-être que les vrais super-héros, ça va marcher.
Ils n'existent pas. Tu es au courant, Thomas?
Ah bon? C'est de la fiction, ça n'existe pas?
Comme le Père Noël.
Oh non. Bon, le grand méchant Glass n'a pas marché. On va aller sur un héros plus sombre. Dark Phoenix.
Le grand méchant de glace, t'y vas fort, hein. Moi j'ai pas vu Abominable.
Oula.
Là au moins c'est une blague plus commune.
Ouais, là, mais là il faut être pointu, faut savoir que Glass est sorti, et que Abominable c'est le Yeti.
Oh, c'est... les gens sont pointus, tu vois.
Les gens sont pointus.
Arrête de sous-estimer nos auditeurs.
Bref, Dark Phoenix, le dernier en date de la saga X-Men, le chant du cygne.
Ouais, ça sent l'abandon, surtout qu'en plus c'est le dernier film super-héros que Fox sortait avant le rachat par Disney, dont l'objectif est de racheter chaque organisation de cette planète, je crois. Quelle est la part d'implication de Disney? Qu'est-ce qui était déjà dans les tuyaux par la Fox? Mais c'est le film en autopilote, déjà troisième fois qu'on raconte l'histoire du Phoenix en film, ils l'ont foiré à chaque fois, il y a des milliers de comics X-Men, vous pouvez choisir d'autres histoires à raconter, surtout c'est pour rajouter les méchants, où ils se font même pas chier à les nommer, les interactions entre perso, plus aucun souvenir alors que c'est tout l'intérêt de cette équipe, le sous-texte sur les minorités qui est toujours là dans X-Men, il est là mais vraiment parce qu'il faut qu'il soit là, parce que c'est toujours là dans X-Men, mais ouais, autopilote total.
Je t'avoue que j'ai du mal à me souvenir de ce film. Lui aussi. Alors, quand la Fox s'occupe de Marvel, c'est pas terrible, mais quand Marvel s'occupe de Marvel... Le flop 4, on arrive dans le dur, et alors là, on a fait un tir groupé. C'est-à-dire qu'on est parti sur... Alors, il y a surtout deux cas, cette année. Avengers Endgame, la grosse sortie, la fameuse conclusion. Et la conclusion de la conclusion, avec Spider-Man Far From Home, qui est sorti derrière. Pour conclure le cycle après la conclusion du cycle. Qui veut développer sur la place de ce flop, Karl, notre expert comics, évidemment.
Sur Endgame, on était sortis assez satisfaits. Enfin, on avait été bien divertis. Et puis, c'est le genre de film où, souvent le cas avec Marvel, mais ça, ils n'avaient pas réussi à m'avoir à ce point jusqu'à présent. Au bout de deux semaines, tu réfléchis au film, puis tu revois un ou deux extraits, puis tu le revois et tu dis... Ah non, c'est de la merde, hein. Il y a 3 ou 4 plans sympas, il y a 3 ou 4 idées qui sont, ouais, fun, surtout quand, comme moi, t'es fan du truc. Mais non, ça raconte rien, c'est creux, c'est assez débile. Et assez lisse, comme tous les Marvel depuis que bah, la consigne, c'est de copier Joss Whedon sur Avengers et de tout faire pareil. Et Spider-Man Far From Home, bah, deuxième film Spider-Man qui n'est pas sur Spider-Man. Deuxième film Spider-Man où Spider-Man refuse toutes les responsabilités qu'on lui propose. Un grand pouvoir implique un grand déni, apparemment. Et oui, et tout le monde me dit, mais non, il est trop bien, il y a la scène avec les illusions. Waouh, putain, tu veux dire que sur un film de 2h20, quelqu'un a bossé pendant 3 minutes ?
Oui, en plus, c'est la scène qui a été sous-traitée, en plus.
Voilà, en plus, qui a été sous-traitée à un autre studio. Parce que, ben, c'est horrible, mais à Disney, ils n'ont plus de gars qui savent faire de l'animation.
Ouais, alors moi, je te rejoins sur le Spider-Man en flop. C'est vrai qu'en plus, on a tous sauf Spider-Man. On a Iron Man bis, si on veut. Si on veut, mais Spider-Man, je ne l'ai pas vraiment retrouvé. En plus, on a gommé tout ce qui faisait Spider-Man, c'est-à-dire ben, l'oncle Ben, ce genre de truc.
Par contre, Avengers Endgame, bon, alors, ouais, moi, ça fait partie de mea culpa, parce que, bon, je me suis vraiment... j'étais vraiment au taquet quand je suis sorti du film. On était dans la salle, on l'avait vu à la sortie, même, le jour même, avec la salle à fond et tout. À minuit, on était au taquet. Et en fait, ouais, c'est le genre de film, ben, c'est comme un Star Wars, en fait. C'est fait pour être vu à minuit avec les fans. T'es content, puis après, une fois que tu réfléchis un peu, ben, c'est compliqué. L'endgame, au moins, ce que j'aime bien, c'est qu'il vient conclure le cycle, c'est la conclusion, c'est la récompense aux fans, et puis c'est assumé. C'est-à-dire que Avengers, enfin, ouais, les Marvel en général, je considère ça comme une série, finalement. Tu as un épisode, tu as l'histoire globale qui avance un peu par film, et voilà. Et là, c'était le final de la saison, avec tout le monde qui vient, qui fait sa grosse scène, son truc. Alors, du coup, il y a tellement de personnages que ben, tout le monde a un petit morceau du gâteau, mais du coup, ben, c'est pas satisfaisant. Et puis, t'es obligé de lisser pour que tout le monde ait un peu de place. Du coup, ben, tout le monde est serré, on peut pas vraiment s'exprimer, on peut pas vraiment avoir quelque chose de si grand que ça. Et oui, au final, quand on réfléchit, c'est fade. Mais je trouve qu'il remplit bien son rôle. Et par contre, Spider-Man, oui, on crache sur le perso, quoi.
Moi, je suis d'autant plus dégoûtée par Avengers qu'on avait vu 2 mois ou 3 mois avant Captain Marvel, que je suis celle qui est tout le temps en train de dire non pour aller voir ce genre de film parce que ça me débecte de voir ça au cinéma, que j'avais bien aimé Captain Marvel et que j'étais vraiment enjouée à l'idée de voir Endgame, et j'ai été désolidarisée de vous lorsqu'il est sorti, j'étais pas avec vous, j'ai été le voir dans un autre pays, dans d'autres conditions au niveau cinéma qui étaient vraiment pas les meilleures, et j'ai été... mais... absolument déçu. C'est vraiment pour moi un de mes plus gros flops parce que, à cause de toutes les raisons que vous venez tous les deux de citer, et aussi parce que bah, c'est bien la peine de faire monter la sauce comme ça, mais si c'est pour faire que des scènes iconiques pour montrer que tu termines ton arc narratif, ça n'a plus aucun sens. Au final, ce film n'a pas vraiment de scénario, ou en tout cas, on s'en moque parce qu'on comprend que l'idée c'est juste je veux que ça se finisse, je veux que ça se termine, et c'est tout.
Ouais, moi j'avais l'impression que c'était le jeu des fonds d'écran. C'est-à-dire ouais. Qu'on va caler des fonds d'écran, mais après, comment est-ce qu'on les amène ? On s'en fout.
Trouve-moi une idée scénaristique, un fil rouge qui me permette de mettre tous ces trucs-là pour qu'on puisse terminer cette saison et réouvrir sur un autre truc. Mais voilà, c'est tout. C'est marketing.
Parce que franchement, la scène où il y a toutes les héroïnes qui sont là sur le plan, je dis waouh, putain, c'est la méga classe. Mais après, je me dis, mais en fait, ça sert à rien parce que Captain Marvel, toute seule, elle est aussi puissante que toutes ensemble, donc elles n'ont pas besoin d'être alignées comme ça.
La raison pour laquelle Captain Marvel n'entre pas dans Endgame est complètement stupide. Elle est bâclée, on te la sort en 2 minutes. Et puis,
désolé, j'ai piscine.
Ouais, désolé, j'ai piscine sur d'autres planètes. Et merde, la mort de Black Widow, bordel. Qu'est-ce que c'était raté cette scène ? J'ai même pas compris l'enjeu de cette scène quand je l'ai vue. J'ai là, ah d'accord, elle va mourir, mais en fait, ok, bah, dites-le si vous vous en foutez qu'elle meurt, en fait, y a pas de souci.
Bah, c'est vrai que moi, à la limite, Spider-Man Far From Home, je suis dans le même état que ce qu'on se disait. De toute façon, si on écoute l'épisode, on était sortis assez contents du truc, bah, parce qu'on s'est fait avoir comme des couillons par le gros spectacle. Alors, si, c'est vrai que moi, c'était le Fred de tweet de Karl. Auquel je vous renvoie, que j'écrivais en direct quand il nous écrivait sur la conversation, où là il a mis en avant tous les défauts en hurlant dans tous les sens, et j'ai dit putain, oui, tellement. Et Endgame, ce qui est encore pire, c'est que je l'ai revu quelques jours après, en fait, et c'est, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû rester sur la bonne impression, parce que quand il réfléchit, en effet, ouais, fond d'écran, plan iconique de partout, il y a que de ça, et il y a juste des on va dans toutes les époques pour te remontrer tous les persos que t'as aimé et tous les passages des anciens films que t'as aimé, mais il y a aucun, strictement aucun moment où il y a du cinéma. Il n'y a pas de trame, Les frères Russo savent pas filmer, bon ça on en avait déjà la preuve, on a vu Infinity War dans les scènes d'action, c'est infâme. Mais sauf qu'Infinity War ça passait plutôt bien quand même, parce qu'il y avait une trame justement. Et là ouais, tous les plans, les chants contre chants sont dégueulasses, les plans iconiques servent juste à dire regarde il y a des plans iconiques, mais on est persuadé de voir de l'action, mais en fait on n'en voit pas. Donc une fois que tu les as déjà vus, que tu regardes la seconde fois, tu fais bon les plans je m'en fous, maintenant voyons voir comment ils se déplacent, comment ils quelles sont les chorégraphies, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cinéma en fait dans ce film, c'est dingue quoi, c'est des artworks qui s'enchaînent. Donc en fait c'est un comics, c'est juste que chaque plan était une case de BD, je veux dire, mais qui respecte pas les comics non plus.
On n'a pas aimé Avengers, on n'a pas aimé Spider-Man, et là on entre dans le dur, dans le top 3, enfin dans le flop 3 plus exactement. Il y a pire encore que... Il y a les Avengers, mais les Avengers français, les terribles Vengeurs français. Mangeurs, ça dépend comment on veut. On a fait, en top 3, on a mis les comédies françaises dégueulasses.
Oui, on l'avait déjà fait l'année dernière, oui, oui.
Alors, il y a une catégorie de films qu'on adore. En plus, on adore aller les voir, c'est vraiment, c'est cruel. On les met dans le flop et on va les voir. Ces films, vous les connaissez par cœur. On a du All Inclusive, on a du Black Snake.
C'est quoi cette mamie ?
Du C'est quoi cette mamie ? Damien veut changer le monde. Beaux-parents, Quand on crie au loup. Joyeuse retraite. Edmond, Les municipaux, Le dindon également.
Ah, ça va, t'as mis Edmond là-dedans, ça va hurler. Parce que je pense que tout le monde est d'accord pour le reste, mais pas pour Edmond. Hein.
Moi, je le mets dedans.
Ah, non, mais moi aussi, hein, en plus j'ai vu la pièce. Quoi, je veux dire.
Non, je m'en bats les couilles de ces comédies. Merci de me pointer le micro.
Carl était parti pendant le premier de la classe, il s'est désolidarisé de l'équipe.
Oui, mais il a subi Black Snake jusqu'au bout, et c'est un exploit.
Ah non, mais premier de la classe, je sais plus, je crois qu'au bout d'une heure, il y en a un qui se met à chanter, j'ai fait « Waouh, en fait, rien ne m'oblige à rester dans cette pièce », et je me suis barré.
Et rappelons que Hera avait tenté de fuir à la première blague. Littéralement, elle s'est jetée sur nous. « Non, laissez-moi partir !»
J'ai effectivement essayé de ramper sur les sièges pour quitter la salle. C'était une vraie torture, mais on m'obligeait à rester. Quand j'ai vu Carl partir, j'étais un peu jalouse et triste.
Pour ma part, j'ai vu... Ah, il y avait... Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bondo aussi, que j'ai oublié.
Ça, c'est le must du must. Hein. Si jamais on ne mettait pas comédie française, on aurait mis celle-là. Hein.
All Inclusive, je l'ai vu pour me faire du mal. J'étais en déprime et j'avais envie de pleurer. Et ouais, j'ai bien pleuré.
Tanguy 2, bordel. Tanguy 2, quoi.
Il y avait Tanguy 2 aussi. Ouais. Voilà. Mais All Inclusive, même l'affiche ne fait pas d'effort. Regardez, il y a une espèce de Photoshop dégueulasse avec les héros dans l'eau. Même l'affiche ne fait aucun effort. Donc je veux dire, il n'y a rien à sauver. Bon, cela dit, les Américains ont les mêmes, mais ils ont la décence de ne pas nous les envoyer. Ou alors ils les refilent à Netflix, ils nous les envoient.
En fait, de temps en temps, ils mettent Adam Sandler dedans pour nous faire croire qu'il y a peut-être un intérêt, alors que pourtant, on est toujours d'accord pour dire qu'il n'y en a pas avec lui. Hein.
Bon, mais les comédies françaises, c'est que numéro 3. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que ça ?
L'amour. L'amour.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'amour.
Ah bah, l'amour quand c'est mal dit, c'est chiant.
Eh bien, après les comédies françaises, il y a After. After, cette adaptation de cette teen romance.
Cette fanfiction tirée d'une fanfiction de Twilight, mélangée avec One Direction. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer?
Et avec des choix de des noms de perso, comment dire, magiques, n'est-ce pas?
Ah bah, c'est l'histoire d'une fille qui découvre la vie, la rébellion et l'amour et le sexe. Et le gars qui la dépuce, elle s'appelle Hardin. Alors, Hardin. Et, je veux dire, t'es auteur? Tu réfléchis deux secondes, comment je l'appelle? Dur dedans!
Alors, c'est une autrice sur Wattpad. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'auteur à ce niveau-là?
Si elle l'a écrit, elle a dû écrire le prénom genre 500 fois dans son putain de bouquin. Y a pas un moment où dans sa tête ça a fait « dur dedans », c'est peut-être pas...
Peut-être que les lectrices et les lecteurs attendaient ça.
Alors, en tout cas, je t'annonce que les spectateurs n'attendaient pas ça.
Hein. Alors d'ailleurs, c'est un truc qui est très marrant sur Sens Critique, j'ai vu la notation. Alors c'est une très mauvaise notation, hein, mais il y a un pic de 10 qui est assez hallucinant. Il y a eu un raid de fans qui ont tous noté 10.
Ils avaient tous 12 ans.
Oui, non, c'est ça, c'est les gens qui ne connaissent pas ça et qui peuvent se dire que c'est comme ça que ça marche. Ah, puis tu te rappelles du moment où il raconte pourquoi il aime pas son père, en regardant fixement le mur blanc devant lui? Bah, de toute façon, je crois que toute sa performance a été en regardant le sandwich qu'il attendait sur la table derrière la caméra. Hein.
Ah oui, il y a un regard profond de personnage. Ouais. Presque aussi profond que le scénario de Star Wars 9.
Chaque fois qu'on me rappelle qu'il y a Come After, je pense à un film que j'ai pas vu, mais je tiens à vous rappeler que ça existe. Ça m'a fait penser à Midnight Sun avec Patrick Schwarzenegger. Je voulais juste recaler ça quelque part.
Chacun ses traumatismes, Thierry. Ouais.
Moi perso, j'ai vu Thème de Patrick Sébastien où il essaye de parler du viol et du handicap mental.
Un jour, on va se faire une soirée Thème le Baltringue, tu vois. En plus, Cal les a déjà vus, donc comme ça, il pourra déjà se mettre en PLS au début.
Je ne serai pas là.
Et le flop du flop, le pire du pire, le fond du fond, l'incompréhension totale, l'erreur industrielle, qu'est-ce qui s'est passé, mais qui a pu valider ça? Celui qui a chamboulé le classement, ben, il y a deux jours, en fait, au moment où on enregistre. Star Wars 9.
L'ascension de Skywalker.
L'ascension de Skywalker.
Il est monté.
Ouais. En même temps, c'est très logique, parce que si tu traduis littéralement, c'est l'ascension du marcheur du ciel. Mais non, il n'y a pas de symbolisme autour de ça, rassurez-vous.
On le met là, je crois qu'on pourrait mettre presque l'après-logie,
la
post-logie ensemble. Et on pourrait presque mettre la post-logie, parce que c'est la conclusion, mais c'est même c'est le symptôme de ce qui se passait depuis le début, quoi. C'est triste, c'est une catastrophe au niveau scénaristique, ça part dans tous les sens, ça tient pas debout, y a rien, mais c'est juste la conclusion de ce qui s'est passé des deux films avant, quoi. Quel que soit ce qu'on pense des deux films précédents, mais il y a rien qui marche.
Ça prouve qu'ils ne voulaient pas faire de cinéma, qu'ils ne voulaient pas raconter d'histoire, qu'ils voulaient nous vendre un maximum de bidons de lessive le plus vite possible, quitte à aller à l'impro, et ils ont raison. Je suis allé sur internet et les gens disent que c'est une conclusion parfaite à la meilleure trilogie de tous les temps. D'ailleurs, on a tellement habitué les gens à manger de la merde avec le MCU, enfin Disney en général, que maintenant, il suffit... J'ai vu des gens qui disaient que c'était trop bien parce qu'on voyait les Ewoks sur un plan.
Ah ouais, à ce niveau-là, quoi.
Ah non, mais les gens n'ont plus la moindre exigence, c'est « Ah, il y a du sabre laser, en plus c'est Noël, je vais peut-être avoir des idées de cadeaux. » Parce que Disney n'a pas du tout réfléchi ça comme ça, c'est par pur hasard que ça tombe deux semaines avant Noël.
Oui, c'est vraiment pas du bol, hein. Franchement.
Et non, et puis c'était très important de rompre avec la tradition de sortir les films en été. C'est un peu Star Wars qui a inventé la tradition de sortir les blockbusters en été pour pouvoir vendre plus de jouets. Parce que jusqu'à présent, Star Wars galérait à vendre des jouets, tu vois, c'est connu pour ça.
Pour plus de détails, je vous renvoie à un magnifique épisode qu'on a enregistré. En plus, on était bien long sur Star Wars.
J'ai vu, parce qu'il est sorti il y a deux jours, et j'ai vu aujourd'hui ou hier un article qui... l'un des points dont on parle le plus dans Star Wars 9, je me disais, le scénario con, la réelle inexistante, le manque de conclusion, le baiser lesbien à la fin. Alors, ça c'est un truc que je vois notamment dans Disney, le côté « regarde comment on est progressiste ». C'est un baiser qui n'est pas filmé comme un baiser amoureux. C'est deux femmes qui sont dans la résistance. On les voit pas s'inquiéter l'une pour l'autre, on les voit à aucun moment avoir de partager. C'est à la fin, ouais, on a gagné, ouais, c'est super, c'est... Oh, des lesbiennes, hé, hey, on a gagné. Et...
Ça faisait plus bisous de nouvel an. Hein.
Non, mais si tu veux, pour promouvoir les causes LGBT, intègre-les à ton truc. Fais pas juste un film et... Ah c'est bon, on a des lesbos, on peut avancer.
Oui voilà, fais-nous des personnages et pas de figurants dans le fond, quoi.
Voilà.
Est-ce que ces deux femmes qui s'embrassent ont seulement échangé des lignes de dialogue pendant la trilogie à un moment?
Il n'y a pas besoin d'échanger des lignes de dialogue pour échanger des baisers.
Regarde Finn et Poe, ils ont discuté ensemble pendant trois films, ils n'ont rien fait.
et qu'on nous dit. Voilà.
Et puis surtout... Depuis ces 3 PO et R2-D2, il n'y a plus besoin de perso gay dans Star Wars.
Non, on apprend que R2-D2, c'est un droïde femelle. Donc bon.
Il y a
eu un article là-dessus, je sais pas où ils ont trouvé ça. En plus, j'ai vu le film deux fois et j'ai cherché ça la deuxième fois. Je fais à quel moment est-ce que c'est dit? Mais visiblement, il y a un arc de lecture qui dit que R2-D2 est une femelle.
Alors, moi, tu me dirais que les droïdes sont non-genrés, je dirais legit, quoi.
Les droïdes sont carrément non-genrés. Arrêtez de nous péter les couilles à vouloir absolument qu'ils rentrent dans des cases.
Donc en fait, ça va, on a aussi calé le non-binaire, on peut y aller, quoi.
Bien. Non, c'est Billy Dee Williams dans des interviews qui a dit je suis non-binaire et mon personnage Lando est important. C'est pour ça
qu'il rigole. Et surtout, R2-D2, s'il est non-binaire, ça peut flinguer son programme.
Hein. C'était donc ça. Bon, soyons tranquilles. Les Star Wars, c'est tous les 10 ou 20 ans. Et donc... Ah merde.
2021.
Ça a été racheté par Disney, putain, c'est vrai. Oh non. Aïe, 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 aïe. Bon, je crois qu'on va faire une pause de remplissage de verre. Et on passe à la suite. On mettra les flops perso sur les réseaux sociaux, on vous détaillera ça tranquille.
Bonne surprise mention spéciale et top de Yassa, comme ça c'est dans les mentions
spéciales.
Allez,
on va aborder le côté positif. Alors non, il n'y aura pas Tarantino dans les côtés positifs pour une simple et bonne raison, c'est que on n'est pas tous d'accord dessus. Tout simplement. N'est-ce pas, Ira ?
Ouais, on vous renvoie à l'épisode pour plus d'informations.
Voilà. Moi, je suis de meilleur avis. En réfléchissant, je suis de meilleure humeur que pendant l'épisode. Mais...
Pour vous rappeler, c'était... Ah, c'est trop bien, c'est trop... Ah, putain, c'est trop bien. Oh, c'était pas mal, ouais. Oh, moi, je suis un peu petit. Quentin, c'est un gars, tu vois, il va t'emmener loin. Et puis, tout à coup, il faut qu'il te démonte la gueule, alors il va le faire comme d'habitude. Voilà, c'était un extrait de l'épisode.
Il y a ça qui parle malheureusement à la fa, et du coup, il fait... Bah, j'ai plus rien à dire.
C'est ça, c'est les gros épisodes. Quand on est trop nombreux, on n'a plus rien à dire. Et ouais, il faut, c'est pour ça qu'il faut parler en premier, toujours. Et oui, comme ça on dit des conneries, mais au moins on peut les dire. Et quelqu'un ne dira pas à votre place. Bien, et bien alors, les bonnes surprises tiennent de cette année. Avant d'aborder le bon gros top, avant de rentrer dans le top, ces bonnes surprises, ces films qui sont peut-être pas... qu'on mettrait pas forcément dans le top parce que techniquement où il y a des points qui pêchent un peu, mais qui nous ont... mais ces films qu'on n'attendait pas, qui nous ont fait apprécier l'année 2019, qui en avaient besoin.
Rien ne me fera apprécier l'année 2019.
Bon, qui fera avaler la pilule. Ira.
Eh bien, la grande surprise pour moi, ma bonne grosse surprise, c'était Captain Marvel. J'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. J'aurais jamais pensé apprécier un Marvel. J'aurais jamais pensé passer un bon moment devant un film de cette écurie-là. Un film même de super-héros, c'est quand même très rare que j'apprécie. Et là, Captain Marvel, j'ai été subjuguée. J'ai trouvé ça hyper fun. Je me suis marrée tout le long. J'ai trouvé ça bien gaulé sans avoir trop d'attentes. C'est un film pop qui reste un film popcorn. Mais qu'est-ce que c'était chouette d'avoir une icône forte comme ça ou avec une Brie Larson au top. Et c'était vraiment appréciable et c'était beau, ça avait du sens. C'était un gros retour dans les années 90 avec bien un aspect 90 avec bien un aspect metal rock underground. C'était tellement chouette et ça avait et le scénar valait quelque chose. Donc c'était vraiment super surprise. Ça c'est mon numéro 1 et numéro 2, Stan et Ollie. Beaucoup plus mignon. J'y suis pas allée volontairement, c'est Thierry qui voulait aller le voir, on l'a suivi. Et qu'est-ce qu'on a passé un super moment avec des émotions qui partaient dans tous les sens, du positif, de la tristesse, de la joie, du fun. On retournait à fond dans leur époque et c'était super bien foutu. Et je garde encore, ça m'arrive encore de chantonner leurs petites chansons toute seule dans mon coin. Et c'est un film dont j'apprécie revoir des passages maintenant. Ouais.
Carl ?
Alors, c'est Sœurs d'armes, qui est un film dont je n'attendais... Pas spécialement grand-chose. Caroline Fourest, je ne la connaissais pas en tant que réelle, à part documentaire. Et elle a fait une fiction, bon, avec son message et ses engagements, mais on va dire traitée correctement et dans leur complexité, dans leur ambiguïté, jusqu'à un certain point. Et c'est aussi un film de guerre bien foutu, ce qu'on n'a pas eu beaucoup. Et puis, film de guerre français, on a eu ça et l'intervention cette année.
C'est vrai.
Le chant du loup, à l'extrême limite, mais... voilà, c'est vraiment le film. Je suis rentré dans la salle sans la moindre attente et je suis sorti. Ah bah putain, il y a encore quelques films de genre français qui valent le coup d'être vus.
Thierry, à toi, ta bonne surprise.
Ouais, alors j'en veux bien deux du coup. Une qui n'était pas forcément évidente à mettre là parce que nous on l'a vu en 2018, en fin 2018, mais c'est considéré comme un film de 2019 parce qu'il est sorti en début d'année. C'est Sorry to Bother You, qui était pour moi une proposition mais totalement abracadabrantesque. Bon, on l'a vu au pif, donc non, c'était pas une proposition folle, on s'y attendait, mais c'était tellement n'importe quoi ce truc et c'était tellement fun à regarder et c'est pertinent dans ce que ça dénonce et c'est super cool pour ça. Au même titre, dans le pif, je mets Color Out of Space aussi cette année, qui était une excellente surprise pour moi, même si je m'attendais à quelque chose de très bien. Et la deuxième, alors c'est pas une bonne surprise parce que je m'attendais à quelque chose de très bon, c'est juste que vu qu'on ne l'a pas mis dans le top pour d'autres raisons, je préfère le mettre là, c'est Douleur et gloire d'Almodovar, qui moi est un film qui m'a énormément touché et qui, quand je suis sorti, j'étais un peu perplexe sur certains points et j'y repense encore beaucoup maintenant. Je repense encore beaucoup à toute la douceur que le film véhicule, tout ce que ça a voulu me dire, à Antonio Banderas qui est mais tellement dingue et que j'ai vu dans un espèce de direct DVD américain juste après en me disant Ah putain, il fait encore de l'headshoner débile, mais quand il veut, le mec, il fait ça. Je veux dire, et voilà, c'était un super film d'Almodovar. Ça fait toujours peur parce que c'est un film qui fait très testament aussi, puisque le mec met toute sa carrière en amorce. Mais voilà, c'était un super film, quoi.
Mais je te rejoins complètement. Je vous renvoie sur l'épisode en question, évidemment. Mais ouais, Douleur et Gloire, on l'a pas mis parce qu'on était, on était pas si nombreux que ça à l'avoir vu dans l'équipe. Moi, c'est très compliqué parce que même si je trouve 2019 un peu faible, eh bien, ma foi, il y a eu quelques bonnes surprises. Alors, Sœur d'Armes, je suis d'accord aussi. Camille aussi, c'était bien. Artic, j'ai adoré. Tel Aviv on Fire. Mais, celui qui m'a le plus surpris, celui où je me suis dit, on part au carton. C'est pas possible que ce truc marche.
Rappelle-toi l'intro de l'épisode, bordel, où c'était tellement de la méchanceté. Plus gratuite que gratuite, quoi.
Ah ouais, mais en plus, ça met à culpa, mais en direct. Donc, c'est dans l'épisode en question. C'est Nicky Larson, le parfum de Cupidon. Je m'attendais tellement à un nanar infâme. Moi, je pensais le mettre direct dans le flop cette année-là, quoi, avant d'entrer dans la salle. Et en fait, eh ben non, ça tient la route. Ça respecte les fans. Alors, les fans du Club Dorothée, attention, peut-être pas les fans de City Hunter, hein. Il faut partir sur cette notion-là, il faut accepter cette notion-là. Mais il paraît qu'au Japon, ça cartonne.
C'est ce que j'allais dire, le film cartonne au Japon actuellement, alors que là-bas, ils connaissent pas le Club Dorothée. Donc même les fans du manga ont kiffé, quoi. Donc, et de l'animé aussi ont kiffé, quoi. Donc ça va.
Et non, je trouve que ça respecte le spectateur, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des idées de cinéma, il y a des tentatives, il y a des essais. Moi, je pense à une scène de baston en vue subjective qui, dans un film français, moi, m'hallucine. Surtout ce genre de film. Je l'ai revu en plus derrière. Ça m'a fait marrer, le coup du sérum de vérité.
Il y en avait aussi une dans Les deux papas et la maman. Après, cela dit, je préfère quand même voir un film de Philippe Lachaud qui, quand je l'ai revu, je l'ai trouvé assez moyen, que Smaïn en spermatozoïde.
Oui, bon, évidemment, vu comme ça. Mais voilà, donc moi, c'est ma bonne surprise. Quoi. Je ne m'attendais vraiment pas à ce résultat. Quoi. Voilà.
Je remets juste un petit accent sur quelque chose qu'on a mis nulle part, dont on a parlé nulle part, et je voulais quand même en parler rapidement. C'est le film Mon Inconnu, qui était un film français où il n'est pas dans le top, on l'a mis nulle part, et je voulais qu'il soit dans ce podcast de fin d'année. C'est un film absolument adorable, où on vient traiter une histoire d'amour, donc si pour être très classique, sous un axe un peu nouveau, et je le conseille, donc je le mets là, juste pour le caler, parce qu'on en a parlé nulle part cette année, et il était super.
Big up, big up, big up, Mon Inconnu, Hugo Gélin, c'est un monstre, c'est génial. Regardez Mon Inconnu.
On a parlé des bonnes surprises, on aborde, ça y est, l'Olympe de 2019.
Attention, pendant les prochaines minutes, nous ne nous disputons plus. Ça va être beau.
C'est pas sûr. Alors là-dedans, il n'y a pas de Joker non plus.
Attends, le top de Yasa.
Non, laissez Yasa tranquille.
On précise que Yasa a mis Shazam dans son top, hein, je veux dire.
Non, mais alors elle a le droit. Elle a le droit, on le mettra sur les réseaux, on précisera sur les réseaux les tops de chacun. Il n'y a pas Joker, il n'y a pas The Lighthouse non plus, qui est une grosse sortie.
C'est inadmissible.
Mais oui, mais parce qu'on n'est pas assez à l'avoir vu, en fait.
C'est quand même inadmissible.
Si tu veux. Donc voilà, il y a pas mal de films qui ne sont pas dans le top parce que justement, on n'a pas été assez nombreux à les voir. Là, c'est quelque chose pour justement sur lequel l'équipe s'est mise d'accord. Donc là, ça a été l'ONU, hein, pour faire ce top.
Le
G20. Ouais, c'est la COP21 à côté, c'était tranquille, hein. Donc ce top de claque 2019, ce top 10 de claque 2019 commence déjà par un ex-aequo pour vous dire à quel point on a fait des concessions.
On fait 10 du coup.
Ouais. Ben oui, 10, on va pas s'attarder sur plus. Donc en faisant les moyennes des notes et en égalant un peu, donc Exit El Reno, Exit Le Dain, je pleure encore, mais que voulez-vous. Dans ce top 10, on a ex-aequo Adults in the Room de Costa Gavras et Bacurau. Film brésilien de genre, deux registres très différents pour vous dire à quel point on a fait c'est un grand écart ça, dans nos goûts cette année.
Ça reste deux films assez vénères, chacun dans son genre. Bon, moi j'ai surtout aimé Adults in the Room, que de toute façon je suis assez fan de Costa Gavras depuis longtemps, mais il s'était un petit peu, je sais pas s'il était perdu ou assagi ces dernières années, mais là il est redevenu bien vénère et ça fait plaisir.
Ouais, on mange plus soi. Bah, du coup, je vais parler de Bakurao, vu que Karl a parlé d'Angel Syndrome. Bakurao, Bakurao. Moi, j'y suis en plus allé sur des recos. Genre, on m'a dit, ouais, c'est sûrement l'un des bons films de la semaine. Donc, j'y suis allé sans rien savoir, en fait. Et c'est vrai que quand le film a commencé, je m'attendais pas à avoir du giallo dedans à un moment. Et vu que c'est un genre que je découvre en ce moment assez intensément, j'étais très content. C'était assez fun et à la fois bah, assez profond, quoi. Il y a plein de choses. Le film traite de plein de choses. Cale énormément de thématiques sans forcément que ce soit trop brouillon. Ouais, non, c'était plutôt bien. Bakurao.
De valeur sûre. En 9e position, un film que tout le monde a vu, que tout le monde a aimé, à différents degrés pour différentes raisons, mais au final, on l'a tous aimé. Won't Cut of the Dead, ne coupez pas. Ben, le bon film de zombies de cette année, en fait.
Tellement, tellement. Et qu'est-ce que je vous ai tanné pour que vous y alliez.
Et finalement, t'as même pas eu besoin de tant nous tanner que ça parce que nous, on l'a découvert en ciné-expérience. Donc Thomas l'avait déjà vu et nous, on s'est posé devant. Le mec de la ciné-expérience nous dit ne partez pas au début, ça vaut le coup, restez.
Et au moment où il dit ça, je sais que c'était One Cut of the Dead.
Et au moment où il dit ça, Notre-Dame brûle aussi.
Ah oui, mais c'était après, on savait pas.
C'était si on savait.
Ah non, si, on savait juste avant de rentrer.
C'était juste avant de rentrer.
Ça pouvait pas être quand j'étais encore dans la salle. Hein.
Oui. Bah oui.
Salaud. Ouais, non, non, c'était assez dingue. Bon, en même temps, j'aurais jamais eu envie de partir parce qu'effectivement, c'est un film qui est troublant, c'est un film qui a besoin d'être suivi. Mais une fois qu'on est rentré dedans et qu'on l'observe et qu'on se laisse aller à ce délire à la japonaise, c'est absolument formidable. C'est drôle, ça va dans tous les sens, c'est un plaisir à voir et à revoir. C'était original, sans prétention et pourtant incroyable.
Alors la première demi-heure est difficile parce que c'est le concept du film, c'est en gros c'est l'histoire d'un film. Donc on voit d'abord le film qui est un plan séquence d'une demi-heure, d'une qualité discutable on va dire. Et en fait et ça, le film prend tout son relief justement quand on voit les coulisses de ce film là. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut passer la première demi-heure et après le plaisir est crescendo. Ouais. Voilà.
Ce qui est dingue c'est que ça marche sur absolument tous les publics parce que du coup, bon... Au-delà de vous avoir tanné pour y aller, mais je savais que ça passerait plutôt bien avec vous. Moi, je l'ai vu au Japon avec Félix, avec qui on a fait l'épisode sur l'autre, Nicky Larson, qui est pas forcément friand de ce genre de film. J'ai amené un de mes collègues qui avait aimé Douleur et Gloire et qui aime que les films d'auteur très calibrés, qui a adoré aussi. Je l'ai amené Alex. Et à chaque fois, ça a fonctionné. À chaque fois, j'ai eu que des salles qui étaient hilar tout le temps. Donc, j'ai l'impression que c'est le genre de film qui peut vraiment potentiellement plaire à tous les types de cinéphiles, quels que soient les genres qu'on aime, en fait, parce que c'est des codes d'humour qui sont universels et qui fonctionnent parce qu'ils sont très sincères. Quoi.
Là. Et c'est aussi de l'humour sur le cinéma, oui, et sur la façon de fabriquer le cinéma.
C'est ça. Moi, j'avais... Au début, je freinais un peu pour le mettre dans le top, et puis bon, après, je me suis laissé convaincre, mais... Parce que mon point de vue, c'est qu'un film où celui qui présente le film est obligé de dire « restez pendant la première demi-heure », est-ce que c'est un film qu'on peut vraiment mettre dans un top?
Ouais, mais c'est pour que t'es pas... Parce que tu vois, quand on va voir un truc genre Bullets of Justice où on voit un Nanart ou Dulon qui en plus se prétend regarde, je suis nul donc je suis bien, celui-là, ça pouvait être ça. On pouvait penser, non mais c'est bon, au bout d'un moment, arrête d'être nul, tu le fais exprès, c'est chiant, on se casse. Et sauf qu'en fait, tout l'attrait humoristique est là, c'est que bah, il le fait pas exprès, quoi.
Et en dehors de l'aspect humoristique, c'est aussi un film qui aborde différents sujets hyper profonds, comme effectivement la paternité, le rapport entre le réalisateur et sa fille, le rapport à la famille au Japon, qui est quand même assez particulier, le rapport aux acteurs, le rapport au tournage. Ça aborde tellement de sujets différents que c'est pas juste un film où on se marre, c'est en plus extrêmement profond. Donc, c'est aussi pour ça qu'il a cette place dans ce top. C'est parce qu'il aborde plein de plans et que c'est pas juste fun pour être fun.
Encore un film sur le show business, mais cette fois-ci, c'est plus de la musique. On avait subi... Alors, c'était en 2018 ou en 2019
Subi, il va falloir vraiment le dire, hein, parce que quand on était sortis de là, on n'était pas non plus effaré. Plus j'y réfléchis, plus j'ai honte, quoi.
Celui sur Queen, là.
Ouais, bon, Bohemian Rhapsody, mes couilles, là.
Ouais, donc celui-là, on l'a. Du coup, on arrivait...
Bohemian couilles. Qui est Bohemian?
On regarde ma mandoline, quoi.
Mes commentaires.
Donc clairement, quand on est allé voir Rocketman, on n'était pas confiant. Et pourtant, le voici dans ce top. Il est 8e dans ce top. Incroyable.
C'est là que tu vois que les bonnes scènes de Bohemian Rhapsody, c'était celles de Ruben Fleischer et pas celles de Bryan Singer. Non, mais oui. Bah, et enfin, je vais juste te dire ça et après je vous laisse rebondir dessus. C'est juste la preuve que ben il suffit pas de mettre des fausses dents à un acteur. Il suffit de prendre un vrai acteur, quoi, pour faire vraiment un vrai rôle. Et entre Rami Malek qui fait juste que imiter Freddie Mercury et Taron Egerton qui imite ce qu'il connaît d'Elton John en mettant aussi de lui parce qu'il y a une prestation, bah, ça fait une énorme différence, quoi.
C'est aussi au niveau des intentions, Bohemian Rhapsody, c'était un film commandé par les membres survivants de Queen pour lisser toute l'histoire, pour dire ouais, à tout le monde, on était tous copains, il n'y a jamais eu de problème, pas trop d'excès. Oh, je suppose qu'on fumait un pet de temps en temps, mais certainement pas plus de drogue. Oui, certainement que Freddy, ça devait lui arriver de coucher à droite. Non, non, il se détruisait à la cocaïne en couchant avec autant de mecs qu'il pouvait. Et on va cacher ça, on va réécrire l'histoire, alors que Rocketman, ça vient d'Elton John qui dit « Je suis un addict », le film s'ouvre comme ça, et ben je vais vous montrer ce que c'est que la vie d'un addict, et je vais vous montrer, tiens, est-ce que c'est cool de se réveiller avec un gramme de cocaïne directement dans le pif ?
Oui, déjà, il est moins édulcoré sur son vécu. Il l'arrange à sa sauce, hein. Il dit clairement qui sont les gentils et les méchants, mais au moins, il est déjà plus honnête dans sa présentation.
Et il prend plus un aspect comédie musicale, enfin, il y a plus de mise en scène cinématographique plutôt que raconter l'histoire d'un mec.
Oui, il y a des passages de vie qui sont chantés, mais qui sont mis en scène avec de la comédie musicale. Il y a plusieurs personnages qui vont chanter la chanson, et pourtant ce sont les mêmes paroles, ce sont les vraies paroles de la chanson, et pourtant ça a un sens du point de vue de ces personnages-là. Il y a une vraie adaptation. Ouais, c'est un film de cinéma, tout simplement. Et puis on n'a pas la reconstitution dégueulasse d'un concert à la fin, hein, voilà. En copier-coller. On parle de chansons, mais il y a un autre chant qui nous a marqué un peu plus, c'est le chant du loup.
Ah, le chant du loup. Le truc où de base, moi j'étais conquise, il y a Reda Kateb dedans, il en faut pas plus pour que ça arrive dans mon top. Il y a François Civil dedans, généralement, c'est deux personnes où ça me motive assez pour les mettre dans un top.
On l'a vu beaucoup François Civil cette année. Hein.
Ah, qu'est-ce qu'on a vu François Civil, mais bon, après, Omar Sy, je l'ai pas trop vu, mais...
Non, Omar Sy, il faut savoir que Hera a déjà envoyé plein de lettres à Netflix pour voir Arsène Lupin avant tout le monde.
Je ne vois même pas de quoi tu parles, laisse-moi tranquille. Non, le chant du loup, c'était pas, on partait pas forcément hyper convaincu. En plus, on avait Hervé du podcast Travail Soigné avec nous à ce moment-là, c'était cool. Et on partait pas forcément hyper convaincu. C'était un film, on se disait, wow, ça va être sympa, pourquoi pas. Ah, mais quelle claque! Mais quelle claque! Rien que de voir Reda Kateb sur un sous-marin en train de tirer. On relance roquette dans les airs, c'était du pur kiff. Et c'est le concept était chouette, donc on peut faire un film de guerre en rajoutant un concept. Donc là, le concept c'était que François Civil a l'oreille absolue, donc ça lui permet de faire des trucs un peu sympas. Ça rajoute quelque chose, c'est pas juste un film de guerre pour faire un film de guerre.
À regarder avec un casque pour le son. Mais il y a un petit ventre mou, mais franchement, par rapport au reste du film, tu dis quelle claque, mais aussi quelle claque, quel épisode de claque. Alors on n'a pas tout gardé. J'hésite à sortir une version longue tellement on a dit de conneries pendant ce film-là parce que...
Tiens les niveaux jeux de mots, Thomas.
Oui, j'aime les jeux de mots, voilà. Je crois qu'on aurait gagné un quart d'heure de plus si on avait gardé mes jeux de mots à la con.
Voilà, ouais, c'est ça, c'est tes jeux de mots à la con. Parce que moi, on m'a vendu un truc, ouais, on part tous en couille, on fait des jeux de mots sur le sous-marin. J'ai écouté. Non, c'est Thomas tout seul qui fait des jeux de mots sur les sous-marins.
Non, il y a Hervé qui a tenté d'en faire aussi.
T'as regardé les horaires dans Périscope, c'est ça ?
Ah. Non, je l'ai vu sur Allo Ciné.
Je l'ai pas beaucoup entendu quand même. Hein.
Ah, ouais, dès qu'il en fait un, j'en fais trois derrière. Bon, d'accord, très bien. Okay.
Et c'est vrai que les tiens, ils sont assez terrassants. Hein.
Les redoutables, on les appelle.
Non, mais en même temps, limite, t'avais déjà écrit tout un calepin de jeux de mots pour la fin, pour quand on enregistrerait. T'avais déjà trois mots d'avance, c'est normal.
C'est pas vrai, mais arrêtez de dire que j'écris, on va finir par le croire. En plus.
Non, le mec, il a écrit juste les punchlines pour Edmond, hein, je veux dire, c'est tout.
Aïe, 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 aïe. Oui, bah, je l'ai fait que pour... Bah, parce que pendant Edmond, j'avais le temps de le faire. Hein. Pas pendant le chant du loup, j'ai été pris par le film. On arrive au numéro 6. Numéro 6, encore un film français. Eh oui. On est plus sur la comédie romantique, cette fois-ci, de la nostalgie sur la belle époque. Donc, de notre ami Nicolas Bedos. Enfin, notre ami, de Nicolas Bedos.
C'est une confirmation pour Bedos, parce que Monsieur et Madame Adelman, c'est quand même super chouette. Et c'est pourtant le même ressenti à chaque fois. Monsieur et Madame Adelman, j'avais pas envie, parce que Bedos me donne pas envie. Et je suis sorti de l'en mode, moi que c'était trop chouette. La belle époque, j'ai fait, ah, il change de sujet, ah, ça me plaît pas, j'ai pas envie. Je suis sorti de là, je fais, c'est génial. Malgré certains aspects qui me dérangent énormément, notamment la vision de Bedos sur certains types de personnages qui me dérangent vraiment beaucoup. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais au-delà de ça, ça reste une très belle histoire. C'est tellement bien écrit. C'est à la fois tellement drôle et tellement touchant sur plein de points. C'est tellement bien reconstruit. Il sait faire une mise en scène tellement soignée. Bah que du coup... Mais vas-y, feu vert pour OSS, mon gars, quoi. Tu vas y arriver.
Voilà. Le bon film d'espion. Ça nous change. Enfin, il va devoir s'accrocher parce que après l'espion de Star Wars pour nous faire rire au SS, il va falloir s'accrocher.
Ça va être le trait de tout le monde.
C'est moi l'espion.
C'est moi l'espion.
Je vous renvoie vraiment à l'épisode de La Belle Époque. Je l'ai pas vu en même temps que l'équipe, mais j'ai les mêmes choses à dire que Thierry, ou dans le sens où ça fait vraiment du bien de voir un film français qui, quand on parle de voyage dans le temps, au lieu d'amener un principe de machine dans le temps physique en mode science-fiction, apporte ce qu'on peut faire actuellement en te replongeant dans une autre époque avec des systèmes de mise en scène qui sont totalement matériels et actuels et contemporains. C'est génialissime, touchant à souhait et beau.
Ah, et puis il y a la voix de Fanny Ardant, quoi. C'est tout.
Qui n'en fait pas des caisses.
Ah ouais, non, mais moi j'ai juste envie d'entendre Fanny Ardant parler, quoi. Sa voix, bordel.
Écoute, va voir Perdri, tu vas voir si ça suffit à sauver un film. Hein.
Non, mais je sélectionne quand même. Hein. Là, moi je dis qu'elle était pas dedans, tu vois, comme ça c'est réglé.
Je rajouterais aussi le fait que ça fait du bien de voir des films qui, au lieu de parler tout le temps des choses qui ne fonctionnent pas, parlent de comment est-ce qu'on peut réparer les choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est touchant aussi pour cette raison-là. Donc foncez, revoyez La Belle Époque, c'était super.
On arrive dans le top 5.
Wow.
Là, ça rigole plus. Là, c'est sérieux. Bon, en fait, le top 5, on était vraiment dedans, en fait, parce que quand on a fait la moyenne des films, il y en avait 5 ex aequo. Donc, en fait, on est déjà dedans.
Tous ces films-là sont très bons.
Tous ces films-là sont très bons, et encore un film extrêmement bon. Moi, c'est mon premier bon film de l'année, c'est mon premier coup de cœur de l'année. Sincèrement, je me suis dit, mince, quand est-ce que 2019 commence ?
T'avais vu La Inclusive avant.
Je sais plus si je l'ai eu avant ou après.
Je crois, ouais.
Bon bref, c'est celui qui m'a dit « Ah, enfin 2019 commence, La Favorite ».
Ça va, du coup 2019 a commencé au début de 2019 quand même.
Pas tout de suite, non. C'était février-mars, hein.
C'était février, c'était février. Il y avait Thierry
ouais,
est au Japon.
C'était tapé synonyme alors.
Non, c'était carrément après synonyme.
C'était genre en juin. C'était tellement chiant que ça transcendait le temps et l'espace.
Pour lui, c'était le temps.
Non, c'était début février, La Favorite.
C'était au Japon.
Ouais. Ben oui, mais déjà, on avait passé le mois de janvier qui était un désert.
C'était l'Arctique.
Ah, ouais, mais l'Arctique, c'est gentil, mais c'est pas. Ah ouais. Oui, mais c'est pas non plus génialissime, quoi. C'était. Donc, mon premier gros coup de cœur, Yorgos Lanthimos. C'est bien ça, je l'écorche. Yorgos Lanthimos, je ne l'écorche pas. On le connaissait déjà avec The Lobster.
Pour le grand public, pour les autres acharnés qui aiment bien mater des trucs ultra chelous comme nous, nous et Raymond, il y avait Canine et Alps.
Et La Mise à Mort du Cerf Sacré aussi.
Mise à Mort du Cerf Sacré aussi pour le grand public, pour le coup, en effet.
Ouais. Nous, on est Team Canine. Enfin, moi, je suis Team Canine. Hein,
oh, je suis tout.
Avec un trio d'actrices de folie.
Emma Stone, Rachel Weisz et... Olivia putain de Colman, quoi. Je veux dire, voilà.
La reine dans son rôle, mais au sens propre et au sens figuré. À la ville comme à la scène, la reine. Voilà. Et puis, c'est une époque, on est à l'époque moderne, mais on a quelque chose de sale. On a un film en costume sale avec des gens qui vivent vraiment, avec des gens ben, dans la vraie vie, quoi. J'y crois à cette histoire, j'y crois à ces gens méchants, j'y crois à ces gens qui se bousculent, à ces gens qui s'insultent, qui se font des crasses, à ces gens qui vivent, quoi. Moi, j'y crois. Voilà, cet film, ça m'a rendu dingue. J'étais charmé par ce film et j'en garde encore un bon souvenir alors que c'est un film alors, de février. Voilà, donc c'est un des films les plus anciens de cette sélection et il me marque encore pour vous dire à quel point j'ai ce film à cœur.
Ouais, c'est clair. Mais après, moi, c'est vrai parce que je le mets en comparaison avec le tollé qu'il y a eu autour de Marie Stuart, que les gens ont comparé en mode c'est beaucoup mieux. Ah bah non! À la limite, dites que c'est dans la lignée, mais pas dites que c'est mieux. Je veux dire, surtout là, ben on a. Alors, certes, peut-être que c'est un mec qui en parle, alors du coup, ça va déranger les féministes. Bon, attention, débat. Mais désolé, il parle bien mieux d'un film de femme que d'une nana qui est obligée de rajouter des histoires pour montrer à quel point elles étaient tolérantes, alors que c'est pas logique avec l'époque. Enfin,
on est pas obligé. Si c'était le seul défaut du film.
Bon,
non.
C'était surtout sur le fond que les gens adoraient Marie Stuart pour dire c'est progressiste et si c'est ça. Bah, la favorite le fait 30 fois mieux.
La favorite, ce sont des femmes de pouvoir, quoi.
On peut être progressiste et en foutu d'utiliser un logiciel de montage, hein.
Ah, ça n'a rien à voir, effectivement. Évidemment, les idées et la technique sont deux choses, mais c'est bien quand il y a les deux, comme dans la favorite. C'est beaucoup mieux. Là, on arrive avec... Alors là, la favorite, c'était un de mes films du cœur, mais là, on arrive... Attention, le film du cœur des rats.
Bon, je vais aux toilettes.
Mais moi, j'étais chiante.
Je suis aux abonnés présents. Hein.
Le film le plus lumineux de cette sélection.
Sans... Le film où on a entendu le plus de fois le terme... pendant la séance.
C'est un des films qui m'a fait le plus souffler. Autant vous dire qu'il est dans ce top. Bon, j'ai un peu freiné, mais bon, il faut faire plaisir à Hera. Et moi... Mais... Rien que pour faire plaisir à Hera, bon, ok, j'ai lâché l'affaire. Midsommar.
Te prends pas pour un héros.
Je ne suis pas un héros, c'est la démocratie, j'accepte. Voilà, c'est le top numéro 1 d'Hera, et je peux le comprendre. Parce que c'est un film aux nombreuses qualités.
Waouh!
Je pensais même pas que t'en viendrais à dire ça.
Je suis ravi.
C'est un film aux nombreuses qualités.
Il n'y aura pas de mea culpa sur Talasso. Hein.
Qui ne compense pas les défauts, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Hera, Midsommar, ta perle, ton coup de cœur de l'année.
Ah, mais qu'est-ce que j'en ai parlé. Qu'est-ce que j'ai essayé de te le faire mettre dans chacun des épisodes pour qu'on en parle à chaque fois de Midsommar.
Qu'est-ce que tu me fais péter les couilles.
Qu'est-ce que toi, tu t'es pas fait chier à aller le voir.
Il y a une version longue, vas-y, là, allez.
Je vais te le faire bouffer.
Il
ne
le verra pas, du coup.
C'est pas faux. C'est pas faux. Midsommar, mon grand coup de cœur de l'année, donc de Ari Aster, que je ne connaissais pas, que j'ai vu Hérédité après, j'ai moins aimé. Midsommar m'a bouleversé, il m'a happé, c'est un des seuls films qui peut durer 2h20 et que j'ai envie de revoir dès que j'en sors. C'est un film d'horreur, de tension, d'ambiance, c'est beau, la mise en scène est incroyablement travaillée, tout est hyper joli. On reprend des thèmes païens, donc on reprend en plus un peu de l'historique pour créer un autre univers, on n'est pas en train d'inventer des trucs qui partent dans tous les sens sans base. J'ai trouvé ça mais purement sublime autant et absolument hypnotisant, et je crois que moi je me suis laissé happer et hypnotiser et le serpent m'a eu. Voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça.
Je pense que c'est le seul film de l'année où Hera t'a dû te retourner autant de fois vers moi pour me faire des caresses dans le dos et me rassurer, parce que j'étais tellement mal pendant ce film, bordel. Qu'est-ce que j'étais mal, qu'est-ce que ça m'a happé dès les premières minutes, qu'est-ce que j'étais à la place de ces personnages, et je comprenais même le côté idiot de ces personnages qui sont là au milieu et qui, alors qu'ils voient ce qui se passe, ils restent quand même, parce qu'il y a une part de fascination. Et... le bâté. Et ouais, attends, mais j'étais tellement dans un état de mal-être tout du long, et d'un autre côté, j'étais aussi ravi d'être dans cette zone en mode... Je savais qu'Ari Aster arrivait potentiellement à m'y mettre, il a réussi à m'y mettre dans Hérédité, il y arrive encore une fois, ce salopard, alors que j'étais prévenu. Qu'est-ce que j'étais mal. Mais qu'est-ce que c'est bon, du coup, bordel, d'avoir été mal dans un film qui veut faire ça, en fait, et qui y arrive, quoi.
Moi, c'est un film qui m'a bien fait marrer.
Ouais. On se rappelle qu'en plus, à la fois tu te marrais, à la fois t'étais pas content. Parce que tu voulais, évidemment, tu dis, bah, ça va être l'occasion de faire des blagues, mais tu voyais que nous on kiffait, donc t'étais tout seul dans ton code. Non, je peux même pas faire des blagues.
Ah non, mais c'était... une tarte au poil. non, alors je peux pas dire que c'est ma comédie de l'année, parce qu'il y a Star Wars 9 quand même, qui lui prend la vedette au dernier moment, mais c'était pas loin. Et c'est un film qui annonce ses effets, qui reste dans les mêmes lubies que dans Hérédité précédemment. Bon, on a juste changé, au lieu d'être dans le sombre, on est dans la lumière, ok, super. C'est très joli, on aime regarder les jolis plans, mais tout est prévisible, tout est visible à l'avance, en fait, et je trouve que ce film est 100 fois trop long pour ce qu'il raconte. Des gens à table, quand bien même ils mangent de manière parallèle et synchronisée, c'est super, mais je m'en fous.
Bon, évidemment c'est faux, hein, vous doutez bien, mais bon, alors, on le laisse parler un peu.
Écoute, c'est pas parce qu'il y a un enfant malade un moment sur deux plans, c'est ton Ewoks à toi, c'est ça?
C'est ça.
C'est pas un enfant malade, c'est l'oracle. Respecte.
Pardon. Voilà, on a les fans de Star Wars, on a les fans maintenant d'Ari Aster.
Ari Aster Cinematic Universe.
Si seulement il se passait quelque chose. Non, mais si seulement ça devenait aussi incroyable que ce qu'a pu donner Star Wars à l'époque, ce serait chouette, ouais.
Ah oui, en termes de renommée, oui, ce serait bien. Après, une fois de plus, hein, j'ai l'impression que c'est un peu comme Cloud Atlas, ce film. C'est-à-dire que ça n'aura pas forcément marqué tout le monde, parce que c'est en même temps très austère et c'est compliqué de se mettre dans ce genre de film. Mais par contre, ceux qui l'ont adoré vont le défendre corps et âme, quoi. Hein. Et il y a une niche de fans assez puissante sur ce film, parce que moi, les avis positifs, j'ai jamais vu d'avis positifs en mode « c'était bien ». Ceux qui ont aimé ont adoré, quoi. J'en fais partie. Qu'en soit, c'est raccord.
Pareil.
Mais on a remarqué, et c'est pour ça qu'il est dans ce top d'ailleurs. Mon veto n'aura pas suffi. Ah. Par contre, il y a eu un film qui a eu l'unanimité. Il est en troisième position de ce top. Il était dans le top perso de tout le monde. Ce qui est un des rares films à être dans ce cas-là. C'est 90s. Incroyable. Ce petit film sur un ado qui se découvre le skate. Un film de Jonah Hill qu'on avait l'habitude de voir en rôle comique et pas toujours très bon en acteur, enfin, de manière discutable. Le voir sortir ce petit chef-d'œuvre, cette douceur, cette excellente surprise même. Est-ce que c'est vraiment une surprise ou pas ? Hera.
Madeleine de Proust totale pour moi. C'est-à-dire qu'en sortant de 90s, il est dans la même lignée que tous les films qui touchent à mon adolescence, ma période d'adolescence, c'est-à-dire le skate, des potes, une perte de sens face à la vie, une incompréhension, une volonté de faire mieux, mais en même temps un pas en avant, un pas en arrière. Ça évoque tous ces sujets du passage de l'adolescence à l'âge adulte ou de l'enfance à l'adolescence qui sont toujours dans les lignées de mes films préférés. Donc moi, ça m'a fait cet effet où ça fait quelques temps que j'ai laissé tomber ce genre de film-là parce que ça ne fonctionnait plus avec moi, parce que j'en avais vu trop, parce que c'était au bout d'un moment, ça devenait indigeste. Et là, il a réussi à ramener de la beauté sur ces périodes-là et de simplement donner une toile de fond qui n'a pas de prétention et qui simplement s'installe et se laisse suivre. Et c'était hyper agréable.
Alors, et puis c'est un film qui, alors il s'appelle Mid-90s en version originale, donc ça se passe dans les années 95, et alors, on a un revival des années 90, c'est normal, on a eu les années 80 il n'y a pas longtemps, donc c'est normal. Quoique les années 80, on y est encore, hein, parce qu'il y a Wonder Woman qui revient dans les années 80, mais bon, il y avait Captain Marvel qui, elle, était dans les années 90. Enfin, on sent que là, le marketing revival est dans cette zone-là. Mais là, par contre, c'est la version nostalgique la plus honnête que j'ai trouvée pour l'instant. C'est-à-dire que c'est les années 90 par quelqu'un qui les a vécues à cet âge-là, à cette époque-là. Et c'est d'une sincérité et qui justifie justement la qualité de ce film. C'est la sincérité, je pense, en principale qualité, en plus de l'efficacité.
C'est l'école Judd Apatow dont vient Jonah Hill, où on raconte... Enfin, tout un pan, à travers les personnages, on raconte tout un pan de l'humanité à travers des situations très simples, des relations basiques qu'on a tous, mais qui, dans un certain contexte, avec certains personnages, prennent d'autres sens. Et bon, à mon avis, pour son premier film, Jonah Hill n'a pas eu de mauvais maître. Et, je sais pas à quel point il a été aidé pour la réal et l'écriture, mais bon, c'est pas comme s'il découvrait le milieu du cinéma depuis 2 mois, quoi.
Bah, j'allais venir justement sur ce que tu disais, bah, au final Karl a bien rebondi dessus. En effet, de toute façon, t'as toujours ces deux franges de cinéastes entre les grosses productions qui se disent il faut absolument axer ça sur telle ou telle période parce que ça fonctionne, parce que ça va toucher la nostalgie des gens, et du coup ils vont caler le plus d'éléments possible, mais sans les comprendre, juste pour caler des éléments. Tu vois, Captain Marvel, c'est un peu le cas, le côté on te montre ça, on te montre une voiture, on te montre ci, ah regarde, il y a un vidéoclub, regarde, il y a ça, ça te parle. Là, on est sur quelqu'un qui utilise la toile de fond des années 90 pour parler de son enfance, mais du coup il ne parle pas des années 90, il les utilise. C'est pas du tout pareil, c'est pas l'histoire qu'il raconte, c'est l'histoire d'un enfant dans ces années-là, mais c'est pas, on te balance tous les clichés qu'on peut. Alors, ils sont là, parce qu'ils sont inhérents à la diégèse du film, mais c'est un gars qui a envie de parler d'autre chose. Pas qu'il a juste envie de te dire, t'as vu comme je te titille. Non, il te dit, bah, je vais te parler de moi. C'est sincère, c'est naturel, c'est un film ultra indépendant, donc de toute façon, oui, il a fait ça avec des ronds perso, j'imagine. Et, bah ouais, c'est la grosse différence, quoi, c'est pas un truc calibré, quoi.
90s. Pas un truc calibré. Alors, c'est intéressant que tu parles de calibrage, en fait, de calibrer. On va arriver sur le gros calibre. Là, on arrive sur le top 2, là, et j'ai envie d'aborder les deux films en même temps pour une raison simple, c'est que ça a été très dur de les départager pour certains d'entre nous. Beaucoup les citent comme les films de l'année, chacun a raison. Deux écoles s'affrontent. D'un côté, une rage, une énergie, une urgence, et de l'autre, une maîtrise
insolente, une leçon de cinéma sur tous les points. Deux films qui ont fait sensation à Cannes et qui font encore sensation cette année. Les Misérables de Lajli et Parasite de Bong Joon-ho. Les Misérables, on l'a mis en deuxième et Parasite, grand premier de ce top. Et ça s'est joué à pas grand-chose, n'est-ce pas Thierry ?
Et c'est aussi le problème de cette année, puisque Parasite, à partir du moment où on avait déterminé qu'il allait là, il n'a pas énormément bougé. C'est là qu'on voit que l'année était très calibrée, mais que les grands films sont des grands films et le sont restés. Oui, en effet, bon, j'avais mis Parasite en premier, par exemple, dans les deux, parce qu'il a fallu choisir et que j'ai préféré le débat social des Misérables. Pardon, j'ai mis Les Misérables pardon, en premier, mais il y a un débat aussi social dans Parasite qui est fantastique. Ouais, les deux sont des putains de claques, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce genre de film où il n'y a pas une seconde que je considère comme étant en trop. Il n'y a pas un seul moment où je décroche. Il n'y a pas un moment où je me dis, je m'en fous la deuxième fois. Je veux dire, Parasite, j'ai dû le voir 4-5 fois, Les Misérables 2 fois, du coup. Et à chaque fois, bonheur, plaisir et l'impression de redécouverte, surtout. Je n'ai pas eu l'impression de me dire, je connais le film, donc je m'en fous.
Parasite, pour moi, c'est le film qui n'a pas un pet de graisse. C'est tout ce qui est dedans, y a sa place, il n'y a rien en trop, il n'y a rien qui manque. Là, dans ces dernières années, depuis Mad Max Fury Road, c'est ce que j'ai de plus proche d'exemple d'un film parfait. Les Misérables, j'ai adoré aussi, mais bah, moi qui suis très dans les réals, pas forcément millimétrés, mais bah, en fait dans la réalisation toute puissante, Bong Joon-ho, c'est un bonheur. Lajli, qui lui a plus un message à faire passer dans ses dialogues aussi. Bah, je l'ai juste mis un petit peu derrière, mais bon, c'est pas grand chose non plus. Hein. C'est comme ceux qui disent que les Rolling Stones c'est de la merde parce qu'ils préfèrent les Beatles. Bon, bande de cons, les deux sont. Aucun des deux n'est spécialement mauvais. Quoi. Exactement.
Sur les deux, je n'ai vu que Parasite, et je vais rebondir sur ce que disait Karl à l'instant. Et justement, moi, le souci, c'est que Parasite, pour moi, n'est pas mon top 1, clairement. Donc, je le prends comme top 1 du groupe, évidemment, mais c'est pas mon top 1 parce que c'est tellement millimétré, tellement bien fait, et je vois tellement... C'est un peu ce que Thomas reproche à Midsommar, c'est-à-dire que moi, je vois tellement tous les artifices de mise en scène, je vois tellement comme c'est voulu millimétré à chaque instant, à tous les niveaux, hyper carré, où il n'y a rien qui échappe, que bah, c'est super, mais... ça me passe très très vite comme info. Je préfère des films un peu plus indépendants qui sont plus... peut-être un petit peu moins élaborés, un petit peu moins cadrés sur certains points, mais qui vont apporter une patte d'authenticité et pas quelque chose qui semble comme extrêmement millimétré et maîtrisé. Je trouve ça très joli, je trouve ça très bien, mais c'est un peu comme... c'est une œuvre qui est prévue pour être complètement réussie et donc qui ne laisse aucune place à une potentielle faiblesse. Et moi, j'aime les complétudes. J'aime bien voir autant des faiblesses que des forces. J'aime bien quand on me montre toutes les échelles qu'on peut voir, en fait, dans la création. Et là-dessus, Parasite ne remplit pas ce contrat. Mais je le trouve absolument fantastique. J'ai passé un super moment, mais c'est pas un film que je vais chercher ni à revoir ou que je vais porter comme étant un film absolument incroyable, fantastique. Non, c'est juste, oui, c'est bien maîtrisé. Bah, c'est super, mais... ouais. Ok, et quoi d'autre ? Et pour moi, il n'y a rien de plus qu'apporte ce film.
Moi, au contraire, je trouve que je rejoins sur la maîtrise, mais c'est une maîtrise, c'est pas une maîtrise rigide, c'est une maîtrise complète, c'est une maîtrise presque universelle, j'ai envie de dire. C'est un film qui arrive à mélanger énormément de genres dans le même film. C'est-à-dire que nous, on le voit comme un film à suspense, un film thriller, un film intrigant. En Corée, il est vendu comme une comédie. Si vous vous amusez à écouter la bande-annonce coréenne. Et si vous écoutez la bande-annonce occidentale. Eh bien, ce sont deux traitements complètement différents, c'est hallucinant. On se dit, mais c'est pas possible. Enfin, on voit pas les films de la même manière. Et pourtant, ces deux films sont dans le film, et c'est le même film, et ces deux bandes-annonces sont aussi honnêtes que des bandes-annonces. Très bien, bon, ok. Mais il y a une maîtrise, et moi, je suis d'accord pour qu'il y ait des faiblesses, mais je veux que ce soit des faiblesses de personnages, et non pas des faiblesses de scénario ou d'écriture. Moi, je veux que ça soit des faiblesses... De l'histoire, enfin des vraies faiblesses de normales, naturelles, diégétiques.
Je veux pas que ça soit des faiblesses dans la technique. Je veux pas que ça soit le mec qui dit bon, ben lui il sera faible parce qu'il est faible ou parce qu'on n'a pas eu le temps de faire ça. Là, c'est vrai que Bong Joon-ho, c'est pas son plus gros film. Il en avait un peu marre. C'est vrai que le transpersonnage et Okja, c'était des grosses productions, ça le fatiguait un peu. Il voulait revenir à quelque chose de petit qu'il pouvait maîtriser de bout en bout. Et c'est exactement ça. Donc, oui, je comprends que la maîtrise puisse fatiguer, mais moi justement, à la fois c'est très maîtrisé et à la fois je vois pas les ficelles. Là où dans Midsommar je vois des gros câblages, je vois les traits au sol, je vois tout, mais dès la première diffusion, donc c'est ça qui me gêne, là j'ai quelque chose qui est vertigineux, ne serait-ce que la scène de descente de la maison sous la pluie, enfin, de la famille qui descend dans sa maison sous la pluie, qui traverse la ville, il y a une verticalité, c'est vertigineux, j'en revenais pas quoi.
Je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est époustouflant. Cette scène m'a marqué aussi, ainsi que de nombreuses autres. Là où, effectivement, je suis d'accord, je voyais aussi toutes les ficelles en fait de Parasite. Et du coup, je voulais quand j'ai vu Parasite, moi, je suis très fan de Bong Joon-ho à la base. Donc, quand je vois Parasite, forcément, en tant que fan de Bong Joon-ho, je vais mettre en parallèle The Host, qui est le premier film que j'ai vu de lui, donc qui est son troisième, et qui a ce côté un peu crade. C'est un peu sale, c'est pas toujours... Là, Parasite, on pourrait croire que c'est un peu crade, mais c'est de la saleté tellement entourée par de la beauté tellement mise dans une jolie boîte que c'est comme si on t'offrait des mauvais chocolats, mais dans une boîte sublime. Bah, c'est cool, mais dans ce cas-là, filme-moi du... Si tu veux me montrer du crade, montre-le-moi, mais en mode crade. Et The Host remplissait ce contrat-là, là où Parasite l'a pas fait. Donc moi, je vais préférer les premiers essais du réal plutôt que le truc hyper... Tu vois, tu disais tout à l'heure que Midsommar était lumineux, Parasite, je le trouve ultra lumineux aussi. Il a du côté sombre dans l'image, mais en fait, l'image, elle est tout le temps tellement claire et tellement lisse et tellement belle que... Bon. Voilà. Donc, mais je vous rejoins sur le côté hyper, hyper sympa, agréable et maîtrisé et beau du film, ouais.
En tout cas, moi, je constate qu'on n'a pas parlé de Six Underground de Michael Bay. C'est triste. Et je crois que personne ne l'a vu, donc...
C'est ça. Mais on n'est pas très Netflix dans l'équipe.
T'as
hein.
vu ça
si on a fait l'effort pour Scorsese, mais...
En même temps, il n'y a plus rien sur Netflix.
C'est Marriage Story. Hein.
Marriage Story était quand même assez dingue. Ah, enfin, moi, j'aime bien Baumbach et il a une façon de parler du réalisme, des sentiments. C'est canon et c'est surtout la manière dont... Il n'y a pas eu un pet d'improvisation dans ce film. En fait, j'ai regardé des vidéos où tu les vois réciter le script, écrit sur le script, et tout est tellement parfaitement écrit qu'ils n'ont pas besoin d'improviser, t'as l'impression qu'ils le font. C'est ça que j'ai trouvé assez dingue.
Ouais. C'est un autre sujet, mais ouais, c'était chouette. Ouais.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les top persos, qu'il y a des films que vous mettez dans votre top personnel, vite fait, mais deux secondes. Hein, juste.
Je fais juste deux secondes sur un film qui n'a pas été évoqué du tout. Qui est L'heure de la sortie, dont on n'a pas parlé, et moi je voulais quand même en parler, qui est un film français qui est sorti aussi au début d'année, je crois, début milieu d'année, et qui était super. C'est un film de tension, c'est un film sur la manière dont on peut se mettre à voir le monde et à désespérer par rapport au monde et par rapport à la vie. Et c'est hyper oppressant, je le recommande fortement, c'est très sympa.
The Lighthouse.
Très bien, Thierry.
The Lighthouse.
Merci. C'était notre top, Karl. Un mot.
Thalasso, c'est de la merde.
Mais on est d'accord et c'est pour ça qu'on a kiffé en fait. Hein, je veux dire.
Il y a débat, mais on a déjà fait le débat dans l'épisode en question.
C'est du caviar, moi je te le dis, c'est du caviar.
Moi j'ai quand même kiffé. Mais non, Karl persiste et signe. Et je comprends.
L'année prochaine, ce sera le débat Karl contre tout le monde avec Pierre Lapin 2.
Waouh.
Je savais pas qu'il y avait eu un, je m'en battais les couilles, je suppose.
C'était notre top de l'année, notre flop. Donc félicitations à Parasite et à Star Wars 9 qui arrivent à exceller chacun dans leur catégorie. Des petits films qui ont besoin d'éclairage. On est super consensuel quand même, je trouve.
C'est l'école. Enfin, en tout cas, le top, la fin, c'était l'école des clichés, quoi. Mais en même temps, bon, s'ils sont bons, ils sont bons. Qu'est-ce que tu veux faire?
Ouais, voilà. Là, c'est pas pour rien qu'il a tout raflé, le Parasite. Hein. Bon. Je salue également. J'avais demandé dans la journée. Allez, j'en profite. Je fais un petit coucou à Instagram au passage. On le fait pas souvent, donc pour une fois, on le fait. Coucou Instagram. Je remercie les internautes, enfin, les followers, qui nous ont donné leur meilleur et leur pire film.
Il y a même des invités qui sont dedans, de ce que je vois.
You Talking To Me, pour qui le meilleur film, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Ça fait râler R.A. Allez savoir pourquoi. Floriflore qui nous rejoint sur Parasite. El Panquecos, je me demande qui ça peut être.
Eh, hey, Marwan de Doxiné, ça va Marwan.
Pour qui le meilleur film est Martin Eden. Très beau film et on ne l'avait pas tous vu. Martin Eden.
Après tu as Élie Bartin de On se fait un ciné, personne merveilleuse évidemment. Donc.
Qui en meilleur film nous a dit Star Wars 9. Non je déconne, c'est une vie cachée. Eral, je me demande bien qui c'est Eral Asri. Qui nous a mis Midsommar, tiens donc, voilà. Mais qui a détesté Once Upon a Time in Hollywood, puisqu'elle a mis en flop. Le ciné du projo qui nous dit X-Men Dark Phoenix dans le pire film.
Ah oui, j'espère bien. Hein.
Winnie Taniguchi, ah, mon petit Danny, qui, du podcast de Danny, tout simplement. Qui nous dit ben, en pire film, All Inclusive, et en meilleur film, Parasite. Je crois que j'ai rempli pour lui. Aurélie VGRX qui nous dit Parasite en meilleur film et Portrait de la jeune fille en feu. On n'en a pas parlé, c'est vrai, tiens. De
et en plus, c'était vachement bien.
Et ouais. Et par contre, en pire film, elle nous dit La dernière folie de Claire Darling. Voilà, voilà, voilà.
Et ça avait pas l'air très bien.
Mais plutôt dans l'ensemble, on est plutôt d'accord avec les auditeurs, enfin avec les followers.
Oui, enfin la moitié, c'est nos potes. Hein.
Oui, aussi, bon, d'accord. Très bien. Mais cela dit, si vous aussi voulez commenter ce top et ce flop, eh bien, dites-le nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, à Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast. Abonnez-vous à la fois sur les réseaux sociaux et sur votre application de podcast préférée.
Clac Podcast.
Certains l'aiment à chaud. On est sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Castbox, tout ça, tout ça, tout ça. Vous connaissez. C'était une très très belle année et on va partir sur une année encore plus belle. Je suis content d'être en vacances pour pas voir Cats déjà.
Moi j'y vais et je vais faire un épisode.
Moi je suis pas en vacances et je vais pas le voir, hein. Je vois pas quelle pression tu ressens.
Tu te rends compte que le 25 décembre, il y a vraiment Cats, Charlie's Angels, Rendez-vous chez les Malawas. C'est affligeant, le même jour quoi.
Alors, c'est pas pour dire, mais j'ai un des rares trains qui reste. Je vais le prendre tout de suite. Pour fuir cela. Merci, Karl.
Merci, Thomas.
Merci, Ira.
Merci, Thomas.
Merci, Thierry.
Merci, Thomas.
Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve à la rentrée avec plein de nouveaux films pour cette année 2020. Mais d'ailleurs, c'est déjà 2020, que suis-je bête. On vous souhaite encore une merveilleuse année de cinéma et plein d'autres choses aussi, parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie, c'est vrai. Il y a le podcast aussi. Et tellement de bonnes choses. On vous souhaite le meilleur. Ouais, on souhaite aussi d'avoir la chance de vous retrouver également pour les prochains épisodes tout au long de l'année à venir. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Ça marche aussi. Ah. Thierry en a un, attention. Bonjour et bienvenue dans Certains Les Machos.
Ah non, c'était pas... J'allais faire une annonce, une vraie annonce. Fin 2019, on vient d'apprendre que... Enfin, après avoir décidé de l'arrêt intempestif de Clac, considérant que nous avons fait notre devoir, nous avons appris qu'en 2020, il y aura un crossover entre Terminator et Transformers. Nous ne pouvons pas raccrocher les gants si vite. Nous revenons, on fait un petit best-of et on repart.
Je suis étourdi par la nouvelle.
Quand j'ai vu ça, moi aussi, ouais. J'ai fait, tiens, prenons des licences qui marchent plus. Faisons une licence qui marchera pas.
On commence tout de suite avec... Ça s'entend, par exemple.